Vous voyez que Frère Neville croit à l'imposition des mains. Je vois que j'ai quelques questions. Bon, celle-là, j'y viendrai demain soir, parce que je n'ai pas le temps de les parcourir pour vous ce soir. Peut-être sur le message d'hier soir. Maintenant, si quelqu'un a une question sur quoi que ce soit dans le message, vous n'avez qu'à les déposer là-devant un soir, et je pourrai les ramasser le soir d'après. Maintenant, demain soir, je voudrais trouver, ou plutôt avoir quelques prédicateurs si possible, ou sinon quelques hommes ou femmes bien affermis à qui nous puissions faire appel en cas de besoin. Au cas où, demain soir, nous commencerons, après le message, à imposer les mains et pour le Saint-Esprit. Et ensuite, vous aurez carte blanche pour rester ici, si vous le désirez, pendant toute la période des fêtes, s'il faut tout ce temps-là pour mourir. Et puis, sinon, si vous désirez retourner chez vous, eh bien, nous serions heureux si vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez vraiment pas où vous adresser. Nous voulons avoir quelques prédicateurs, leur numéro, si ce sont des visiteurs, leur numéro, là où ils logent, pour qu'on puisse les joindre tout de suite. Et qu'un aille dans une maison, un dans une autre, et un dans une autre, pour qu'ils puissent vous donner des instructions, à vous qui allez rechercher cette glorieuse bénédiction dont nous parlons, le baptême du Saint-Esprit. Hier soir, nous parlions de ce qu'il était. Qu'était le Saint-Esprit? Et nous avons vu qu'il est à peu près tout ce que Dieu nous a promis. Oui, en lui, nous avons trouvé exactement ce dont l'Église de Dieu a besoin. Nous avons vu qu'il est un sceau, un consolateur, le repos, et la joie, et la paix, et la résurrection. Et tout ce que Dieu a promis à son Église se trouve dans le Saint-Esprit. Et maintenant, ce soir, nous voulons prêcher sur, ou parler de, enseigner sur, j'ai environ 3 ou 4 feuilles de texte ici, ou de passages des Écritures. Là-dessus, dans lesquels, hier soir, j'ai laissé ma concordance Crudens ici, et je ne suis pas venu la chercher. Alors j'ai dû faire de mon mieux aujourd'hui avec les passages des Écritures. Bon, et demain, ce soir, nous enseignons sur dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? À quoi sert-il? Si c'est quelque chose de tellement glorieux, alors pourquoi est-ce que Dieu l'a envoyé? Ensuite, demain soir, nous voulons parler de « Est-il pour vous ?» et « Comment le recevoir ?» et « Comment savoir si vous l'avez ?» Et puis, après qu'on aura étudié ça avec les Écritures, qu'on l'aura expliqué par les Écritures, en utilisant les Écritures pour tout, alors là, ceux qui cherchent le Saint-Esprit s'avanceront. Et alors, j'espère que le réveil sera en route après ça, pour alors continuer d'avancer avec le Saint-Esprit. Maintenant, puisque demain soir, il y en a plusieurs qui pourront rester assez longtemps dans les pièces, à l'église, je pense que si nous pouvons avoir autant de prédicateurs et de ces gens qui ont de l'expérience pour ce qui est d'amener les gens à recevoir le Saint-Esprit, pour qu'ils les encouragent, pour qu'ils aillent à la maison avec une femme et son mari ou avec quelqu'un qui cherche le Saint-Esprit, qu'ils soient bien au fait de ce qu'il faut faire. Si vous voulez bien laisser votre numéro de téléphone ou votre adresse au pasteur, ce soir ou demain soir. Vous n'avez qu'à laisser ça, Frère Neville, comme ça, on n'aura pas besoin de se réunir pour une réunion. Vous n'avez qu'à laisser votre numéro de téléphone, là où on peut vous joindre. Et là, dites, je serai disponible. Et si vous voulez me placer chez quelqu'un, si c'est une femme seule, alors nous pourrons envoyer une femme, vous voyez, chez cette femme. Et puis, si c'est dans un foyer où il y a un homme et sa femme, eh bien, on pourra envoyer un prédicateur. Et nous serions heureux que vous collaboriez, parce que je sais que ceci, cette chose primordiale, vous intéresse tous. Et souvenez-vous, celui qui sauve une âme de son égarement a couvert une multitude de péchés, voyez? Et l'épouse de Christ a faim et soif. Elle est dans les douleurs pour donner naissance aux enfants de Dieu. Et maintenant, ce soir, avant de lire les Écritures, courbons la tête un instant pour prier. Et juste avant de prier, pendant que les têtes sont inclinées, auriez-vous une demande? Levez simplement les mains pour dire, « Ô Dieu, je lève solennellement les mains, j'ai besoin, je te prie de m'aider, ô Seigneur. » Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Il voit vos mains. Les anges ont pris vos demandes en note. Et Père Céleste, nous venons maintenant, nous nous approchons à nouveau de toi en prière. Et sans doute que la prière a déjà été faite parmi les enfants de Dieu ce soir, dans ce petit endroit. Et que des chants ont été chantés, et que nous avons élevé des cœurs en réjouissance joyeuse aux louanges de Dieu. David a dit qu'il viendrait dans l'assemblée des saints et qu'il ferait connaître ses demandes. Et ce soir, il y a eu beaucoup de mains. Il doit y avoir, je dirais, à peu près 80% de ceux qui sont assis dans cette salle ce soir qui ont levé la main pour des demandes. Ça montre, Seigneur, que nous ne pouvons vraiment pas nous passer de toi. Il faut que nous t'ayons, jour après jour. Tu es notre vie, notre joie, notre santé, la force qui nous soutient, notre appui, notre bouclier, notre défense contre l'ennemi. Et nous ne pourrions vraiment pas livrer ce combat de la vie sans toi. Il nous serait totalement impossible de le faire. Et nous devons nous en remettre entièrement à toi. Car nous savons que nous marchons à travers une terre sombre et obscure. De chaque côté, l'ennemi nous a assaillis en nous tendant des embûches et des pièges. Nos sentiers, Seigneur, sont remplis de pièges de l'ennemi pour nous troubler. Et nous aussi, nous savons qu'au bout du chemin, nous devons traverser cette longue vallée obscure appelée la mort. Ô Seigneur, qui nous tiendra la main alors? Nous voulons te connaître maintenant, Seigneur. Nous voulons savoir que tu tiens notre main et que nous tenons ta main, pour que nous puissions avoir cette assurance fermement ancrée, de sorte que, quand nous en arriverons à ce dernier grand moment de notre vie, à cette entrée par la porte appelée la mort, nous puissions dire avec le saint d'autrefois, « Je le connais dans la puissance de sa résurrection, et je sais que, quand il appellera, je sortirai d'entre les morts. » Maintenant, Dieu notre Père, nous voulons te prier de bénir nos demandes et notre rassemblement. Bénis tes paroles. Et si je devais dire quoi que ce soit de contraire à ta parole ou à ta volonté, tu as encore la puissance de fermer la bouche, comme tu l'as fait dans la fosse aux lions quand Daniel était présent. Et nous te prions, Seigneur, d'ouvrir les oreilles et les cœurs ce soir, pour que, et de créer en eux une faim et une soif, qu'ils soient tellement assoiffés qu'ils n'aient ni sommeil, ni repos nulle part, jusqu'à ce que le Consolateur soit venu. Nous croyons que nous vivons dans les derniers jours, dans l'ombre de sa venue. Et c'est à cela que ces messages sont destinés, Seigneur. C'est pour que les gens prennent garde, qu'ils reçoivent l'avertissement. Et ce soir, puissions-nous laisser tomber la carapace, maintenant même, la laisser de côté, là, sur le banc, et dire, « Seigneur Dieu, je suis un réceptacle pour toi. » Que ton esprit se déverse à travers moi. Façonne-moi et forme-moi selon ta volonté. J'abandonnerai mon cœur, ma force, mon tout à ta cause. Exauce-nous, Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour nous faire voir en ce soir pluvieux. Nous ne sommes pas simplement ici, faute d'autres endroits où aller. Nous sommes ici avec, dans nos cœurs, un seul but solennel, sacré, saint, celui de nous approcher de toi. En sachant que tu as promis que si nous nous approchions de toi, tu t'approcherais de nous. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Celui qui entre affamé ne ressortira pas affamé. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, a dit Jésus, car ils seront rassasiés. Et si nous demandons du pain, nous ne recevrons pas une pierre. Nous avons cette assurance. Et si nous demandons un poisson, nous ne recevrons pas un serpent. Mais Dieu, notre Père, nous nourrira de la manne du ciel, sa parole et son esprit qui rendent témoignage de lui. Exauce nos prières, Seigneur, et nos demandes, alors que nous continuons de nous attendre à toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Maintenant, vous qui prenez ces passages des Écritures en note, si vous voulez reprendre l'Évangile de Jean avec moi, au chapitre 14, nous voulons commencer au chapitre 14 de Jean. Et commençons vers le verset 14. Jean 14, 14. Et lisons juste un bout de ce passage de l'Écriture. Or, là-dedans, vous trouverez une grande partie du contexte dont je veux parler ce soir. Et souvenez-vous, vous qui avez des Bibles avec les lettres rouges, c'est en rouge, ça. Ce sont les paroles dont Jésus lui-même a parlé. Par conséquent, nous pouvons être assurés qu'il en sera exactement comme il l'a dit. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne faillira jamais. Maintenant, nous allons lire à partir du verset 14 du chapitre 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quelle promesse bénie! Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. Maintenant, vous qui liriez dans une Bible en grec, vous le verriez ici, pas ici, voir veut dire comprendre, car le monde ne le comprend point. C'est tellement vrai. Je vais relire ça, là. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Qui? Le Consolateur. Car il demeure avec vous maintenant. Au présent, il demeure avec vous et il sera en vous. Qu'est-ce que c'est? Le même Consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je. Tout le monde sait que je est un pronom personnel. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est ça qui sera le centre de ma pensée. Mais nous allons en lire un peu plus. Je vais relire ça aussi maintenant. En ce jour-là, le grand jour, le jour du jugement, ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mon commandement et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Ça, c'est le cosmos, l'ordre mondial. Si vous avez une note en marge là, vous remarquerez. La mienne, c'est un G. Et là, il est dit « cosmos » ou « système mondial », c'est-à-dire les églises et tout, vous voyez. D'où vient que tu te feras connaître à nous et non à eux? Comment vas-tu le faire? Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Amen. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Il peut peut-être garder les paroles de l'Église, mais c'est de garder ses paroles, vous voyez. Et les paroles que vous entendez n'est pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes ces choses, c'est-à-dire ces paroles, que je vous ai dites. Donc, dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Puisse-il ajouter ses bénédictions à sa parole? Jésus a dit que ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est en moi et que vous êtes, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Maintenant, si nous devions dire ceci, maintenant souvenez-vous, ceci va être sur bande. Un homme d'affaires chrétien de Louisville m'a appelé tout à l'heure et il a dit, « C'est dommage, Billy, que ces messages comme celui que tu as dit hier soir n'en atteignent pas 40 000 ici, au lieu de 150 ou 200, 300 personnes dans ton petit tabernacle. » J'ai dit, « Monsieur, si Jésus tarde, d'ici 6 mois, le monde entier entendra ceci. » Voyez. Ces bandes vont partout dans le monde, vous voyez, partout. Et par conséquent, là, nous enseignons ici exactement ce que nous croyons être la vérité et ce que nous avons vu Dieu nous confirmer que c'est la vérité. Maintenant, le but, quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Maintenant, je noterai ça, Jean 14, à partir du verset 14, et de continuer à lire dans le chapitre comme base. Le but pour lequel Dieu, nous le voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit, c'était un seul but, que Dieu lui-même puisse habiter dans son Église et poursuivre ses projets à travers l'Église. C'est que Dieu était en Christ, il poursuivait ses projets à travers Christ. De Christ, il est passé dans l'Église. Il poursuit son œuvre à travers l'Église. Maintenant, nous savons ce qu'est le Saint-Esprit. Nous avons vu hier soir que c'est Dieu. Maintenant, quand nous pensons à Dieu, le Père, comme Jésus en a parlé ici, son Père, Dieu le Fils en Jésus, Dieu le Saint-Esprit, comme nous l'appelons aujourd'hui. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux distincts, séparés. Ça veut dire qu'il y a un Dieu en trois fonctions. Disons-le comme ceci, tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ, parce qu'il s'est vidé et il l'a déversé en Christ. Et Christ était corporellement la plénitude de la divinité. Tout ce que Jéhovah était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église, pas dans un individu, mais dans le corps tout entier. Ainsi, quand nous nous rassemblons dans l'unité, nous avons de la puissance. Tout ce que Dieu était se trouvait en Christ, et tout ce que Christ était se trouve en vous. Car Dieu a été fait chair et il a habité parmi nous. 1 Timothée 3:16, si vous prenez ça en note. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair et nous l'avons touché. Dieu, Jéhovah, fait chair et il a marché sur la terre et nous l'avons vu de nos yeux. Vous savez, dans le même chapitre, Jean 14, Philippe a dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous satisfera. » Jésus a dit, « Il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, et tu ne me connais pas ?» Quand tu m'as vu, tu as vu le Père. Et pourquoi me dis-tu, montre-nous le Père? Dieu a été fait chair. Maintenant, voilà, le Père était Dieu au-dessus de vous. C'est ce qu'on dit. Et ça, depuis Adam. Dieu, le Père, était au-dessus de Moïse et des enfants d'Israël, dans une colonne de feu. Ensuite, Dieu avec nous. En Christ. Il a marché avec nous, a parlé avec nous, a mangé avec nous, a dormi avec nous. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, et maintenant, Dieu en nous. Tout ce que Dieu était est entré en Christ. Tout ce que Christ était est entré dans l'Église. Qu'est-ce que c'est? Dieu à l'œuvre en vous. N'importe où dans le monde, quand il veut faire appel à vous, vous êtes sur les lieux, alors qu'il agit en vous pour accomplir son bon plaisir. Combien nous devrions remercier Dieu pour ça? Dieu, le Saint-Esprit, est envoyé dans le but que Dieu vive dans son Église, qu'il agisse à travers chaque âge, qu'il accomplisse sa volonté divine. Quand des hommes se moquent de vous, ce n'est pas de vous qu'ils se moquent, c'est de celui qui vous a envoyé qu'ils se moquent. Alors Jésus a dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Heureux serez-vous. » Et aussi, « Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » En effet, quand Dieu s'est fait connaître en Christ, ils l'ont haï. Qui le haïssait le plus? L'Église. C'est l'Église qui le haïssait le plus. Il le haïssait plus que les ivrognes. Il le haïssait plus que tous les autres. C'est l'Église qui le haïssait. Alors, par conséquent, quand vous voyez « cosmos », l'ordre du monde, le monde ne l'a point connu. Ça veut dire l'Église, la soi-disant, ne l'a point connu. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, comme nous devrions l'aimer et l'adorer, le dessein de Dieu, qui voulait être en communion. Comme avant de quitter ce texte, utilisons ceci. À l'époque de Ruth, dans la loi du rachat, quand Naomi avait quitté le pays à cause de l'épreuve, des temps difficiles, elle est allée au pays des Moabites, qui étaient juste des chrétiens de nom, tièdes. C'est que les Moabites viennent de la fille de Lot, et c'étaient des faux croyants, et ils étaient mélangés. Et là, son mari est mort, et ses deux fils sont morts. Et sur le chemin du retour, Naomi, Ruth et Naomi, sur le chemin de son retour, une de ses belles-filles, Orpa, elle a dit qu'elle allait retourner dans son pays, vers ses dieux, et à son église, et vers son peuple. Et Naomi a essayé de convaincre Ruth d'y retourner, mais elle a dit, « Ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. » Et je ne retournerai pas. C'est ça, quand une personne a saisi une vision, ce que les siens disaient, ça ne changeait rien. Tu vas là-bas pour devenir une exaltée ou quelque chose. Ça ne changeait rien pour Ruth. Il y avait un dessein de Dieu qui devait s'accomplir. Et tout aussi sûr que ce soir, vous êtes affamé du Saint-Esprit. C'est quelque chose en vous qui vous attire, puisqu'un dessein de Dieu dans votre vie doit s'accomplir, tout comme pour Ruth. L'histoire est si belle, je ne peux tout simplement pas m'en détacher en ce moment. Vous connaissez la loi du rachat, selon laquelle quand Boaz, vous connaissez l'histoire de Ruth qui glanait dans le champ et qui a trouvé grâce devant Boaz. Et avant de pouvoir l'épouser, il a dû racheter tout ce que Naomi avait perdu. Et le seul qui puisse racheter la propriété perdue de Naomi, selon la loi du rachat, c'était un proche parent. Il fallait qu'il soit parent pour pouvoir racheter. Et c'était lui son plus proche parent. Et il a dû donner un signe public à l'extérieur de la porte ou une confession publique de ce qu'il avait racheté tout ce que Naomi avait perdu. Et Boaz l'a fait en ôtant son soulier devant les anciens. Et il a dit, « S'il y a ici quelqu'un qui a quelque chose qui appartient à Naomi, aujourd'hui, je l'ai racheté. » Et c'est comme ça que Dieu a fait. Il a suivi ses propres lois. Dieu ne peut pas suivre, vous donner une loi à suivre et lui en suivre une autre. Il suit ses propres lois. Alors Dieu, pour racheter l'Église perdue, le monde perdu, la création perdue, Dieu, qui est infini en esprit, pour racheter la race humaine perdue, Dieu lui-même est devenu parent, un homme, un fils qu'il a créé dans le sein de Marie. Et là, il a donné un signe ou un témoignage à l'extérieur des portes de Jérusalem. Il a été élevé entre les cieux et la terre, et il est mort, et il a tout racheté. Et par son sang, il a sanctifié une église dans laquelle il puisse vivre lui-même, et avec qui il puisse fraterniser et être en communion. Ce lieu de communion qui était perdu depuis le jardin d'Éden, où Dieu descendait chaque soir à l'heure de la réunion. Avez-vous remarqué? Dieu descendait dans la fraîcheur du jour, au coucher du soleil. Il y a quelque chose de spécial. Quand il commence à faire nuit, les gens pensent à l'Église et à Dieu. les chrétiens, vous voyez le soleil se coucher, vous prenez conscience de ce que votre soleil se couche. Et dans la fraîcheur du soir, il descendait pour avoir communion avec eux. Et là, il a perdu cette communion parce que le péché l'empêchait de la voir. Alors, il a été fait chair et il a habité parmi nous afin de pouvoir revenir de nouveau à l'homme et vivre dans l'homme et ramener l'homme à son état de communion avec lui et lui rendre ses droits que Dieu lui avait donnés. Voilà ce qu'il a fait. C'est le but du Saint-Esprit. C'est le Père à nouveau. Dieu le Père qui habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption. Qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui, qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre sœur déchue, perdue, qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des perdus, comme il l'a fait dans le jardin d'Éden. Adam, Adam, où es-tu? Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme quand il pénètre leur cœur et qu'il établit sa demeure. Il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Voilà ce qui ne va pas avec les réunions aujourd'hui. Elles n'ont pas assez la touche de l'Esprit pour aller chercher les âmes des perdus et de ceux qui sont mourants. Il s'agit plutôt de se donner une renommée, ou une église, ou un édifice, ou une dénomination, au lieu d'un programme destiné à gagner des âmes. Quelle pitié! On pourrait s'attarder longtemps là-dessus. Dieu s'est déversé en Christ. Exact. Christ s'est déversé dans l'Église. C'est pourquoi, maintenant, regardez bien. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, vous le saurez. Car c'est... Tout ça, c'est un plan de rédemption qui se déroule. C'est Dieu qui revient pour vivre dans et demeurer avec et avoir de la communion avec son peuple, comme il l'avait fait au commencement. Maintenant, alors, dès qu'il aura fait parvenir son Église à l'état où elle est apte à parler, qu'il aura fait parvenir son Église à un point où il peut se déverser à travers elle, et aimer, et convaincre, et avoir de la communion, alors il y aura un Éden. Il ramènera son Église là où elle l'avait quittée. Il la ramènera de nouveau à un Éden, là où elle était tombée. Maintenant, elle, c'est là qu'elle avait pris son départ, au début, ou sa chute. C'est là qu'elle sera ramenée tout droit, toute ardoise nette par la rédemption. Ils seront ramenés tout droit à cet endroit-là. L'Église a été dans le monde pendant pas mal de temps. Et l'Église, en réalité, après la réforme, les 1500 ans de l'âge des ténèbres, Luther a été le premier réformateur qui est apparu après le cercle des apôtres. Et là, quand Luther est apparu, Dieu a fait tomber un peu de l'Esprit. Elle a déversé sur l'Église, dans la justification. Et puis, à l'époque de Wesley, il a déversé un peu plus de lui-même, dans la sanctification. Et au fur et à mesure que l'âge a avancé, jusqu'au temps de la fin, Dieu a rempli son Église. Regardez bien autour de vous et voyez si c'est la vérité ou non. Regardez l'âge de Luther, vous qui étudiez l'histoire. Regardez leur réveil et ce qu'ils ont fait. Regardez combien le réveil de Wesley était plus glorieux, combien plus ils avaient de puissance, mais en minorité. Regardez bien à l'époque de la Pentecôte, quel réveil ils ont eu alors. Quelle glorieuse, quelle grande vague! Si bien que notre visiteur du dimanche, le journal catholique, a reconnu que les pentecôtistes ont produit 1,5 million conversions en un an, qu'ils en ont fait plus que toutes les autres églises ensemble. Les catholiques n'en ont changé, ne s'en attribuent qu'un million. Dans leur propre Visiteur du Dimanche, le journal qui s'appelle le Visiteur du Dimanche, il est déclaré que les pentecôtistes les ont dépassés. Et rappelez-vous, les conversions pentecôtistes, ce sont des conversions remplies du Saint-Esprit, en minorité au départ, au coin d'une ruelle, là-bas, avec une vieille guitare, et des femmes qui ne pouvaient même pas se payer une paire de bas. Elles restaient là, sur les voies de chemin de fer, à cueillir du maïs et à le moudre pour faire du pain pour leurs enfants. Mais qu'est-ce que c'est devenu? L'Église qui a la position la plus puissante dans le monde aujourd'hui, pas aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, car il le prouve par ce qu'il fait pour eux. Il se déverse en eux. Il le verse en eux. Remarquez là ce qui s'est produit. Dieu qui se déverse en eux. Maintenant, l'Église en est arrivée à un point, à partir de Luther, Wesley, et le réveil est passé à la Pentecôte. Et maintenant, dans cet âge-ci, où nous arrivons maintenant, par le même Saint-Esprit, seulement dans une plus grande mesure. Maintenant, quand ces luthériens ont été sauvés, à l'époque, ils ont reçu une portion du Saint-Esprit. Quand les méthodistes ont été sanctifiés, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Vous voyez, c'était une partie du Saint-Esprit. Ils ne parviennent pas sans nous à la perfection, dit l'Écriture. Voyez? Maintenant, Dieu, comme la lumière a commencé à briller dans les derniers jours, il attend quelque chose de grand de nous. En effet, on demandera beaucoup là où il a été beaucoup donné. Donc, il va demander de nous bien plus qu'il n'en a demandé des luthériens ou des méthodistes, parce que nous marchons dans une plus grande lumière, avec une plus grande puissance, avec un plus grand témoignage que ce qu'eux avaient. Maintenant, nous avons un plus grand témoignage de la résurrection. Nous avons des choses plus fermes, plus certaines que ce qu'eux avaient. Mais c'est tout comme je disais à un institut luthérien il n'y a pas longtemps. Il disait, « Qu'est-ce que nous avons ?» J'ai dit, « Un homme a ensemencé un champ de maïs. Les premières petites feuilles sont apparues. » Et il a dit, « Merci Seigneur pour une récolte de maïs. » Potentiellement, il l'avait, mais il ne l'avait que dans la forme primitive. Après quelque temps, c'est devenu une tige. Et une aigrette en est sortie, ce qui était les méthodistes. Si vous observez la nature, vous verrez Dieu à l'œuvre. Il y a là un secret qui se rapporte même à mon ministère. Vous voyez? C'est que, en observant la nature, pour voir comment elle fait, à quelle époque et à quel moment, on peut voir où on vit. Observez l'époque. Bon, ensuite, les méthodistes, ils étaient des aigrettes. Ils regardaient en arrière, vers les luthériens. Ils disaient, « Nous avons la sanctification. Vous, vous n'avez rien de cela. » Après quelque temps, à partir de ce pollen, à partir des méthodistes, est apparu un épi de maïs. C'était la Pentecôte. Voilà la justification, c'en est une étape. La sanctification, c'en est une autre étape. Le Saint-Esprit, c'en est une autre étape. La Pentecôte, Luther, Wesley, la Pentecôte. Maintenant, que fait la Pentecôte? Je fais la comparaison, parce que dans la Pentecôte, ça a ramené, non pas une feuille verte, non pas une aigrette, mais le maïs ne peut pas dire à l'aigrette, « Tu ne me sers à rien ». Ou l'aigrette ne peut pas dire à la feuille, « Tu ne me sers à rien », parce que la même vie qui était dans la feuille a fait l'aigrette. La même vie qui était dans l'aigrette a fait l'épi. Et c'est l'Église luthérienne qui a fait l'Église de Wesley. C'est l'Église de Wesley qui a fait la Pentecôte. Mais la Pentecôte, qu'est-ce que c'est? C'est une restauration de la même sorte de grain qui est tombé en terre au commencement. Pour ramener toute la plénitude de la puissance de la Pentecôte par le baptême du Saint-Esprit, vous voyez, dans les derniers jours. Oh, c'est quelque chose de glorieux à regarder, à croire et à regarder. Maintenant, dans cet âge-ci dans lequel nous vivons maintenant, cet âge-ci, c'est plus loin que la Pentecôte. La Pentecôte s'est établie en organisation et elle a commencé à tourner beaucoup ses pensées du côté des organisations. Nous sommes ceci et nous sommes cela. C'est simplement la nature. Vous n'y pouvez rien. C'est la nature. Ils feront ça. C'est le plan qu'ils fassent ça. Mais l'Église a continué d'avancer. Elle est entrée dans plus de puissance. C'est la restauration des dons. Et beaucoup de pentecôtistes ne croient pas à la guérison divine, au ministère des anges et aux puissances de Dieu. Beaucoup de pentecôtistes appellent ces visions que je vois du diable. Beaucoup d'organisations ne veulent même pas avoir quoi que ce soit à faire avec ça dans la Pentecôte. Vous voyez, nous avons dépassé ça, tout comme les méthodistes ont traité les pentecôtistes de fous parce qu'ils parlaient en langue, tout comme les luthériens ont traité les méthodistes de fous parce qu'ils criaient, vous voyez? Mais tout ça, c'est le Saint-Esprit qui descend, si bien que la glorieuse Église est complètement remplie et gonflée à bloc. Alléluia! Des grandes puissances du Dieu Tout-Puissant. Si bien qu'on en est arrivé au point où les œuvres mêmes que Jésus a faites se manifestent en plein dans l'Église maintenant. Nous sommes proches, mes amis. Je vais m'arrêter ici un petit instant pour dire pourquoi Dieu a mis le Saint-Esprit dans l'Église. Vous donner encore un type pour que vous sachiez. Dans l'Ancien Testament, quand un enfant, un homme, se fondait un foyer, il prenait son épouse. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il devenait un grand homme, comme une organisation. C'était bon. Ce qui arrivait après, c'est qu'il y avait une naissance dans ce foyer. Ça, c'est quand le Saint-Esprit, vous voyez, un autre esprit est entré. C'était un fils. Ce fils, il n'était pas entièrement responsable et n'était pas non plus un héritier avant d'avoir atteint un certain âge. Et il devait être éprouvé d'abord. Oui. Et là, ils avaient la loi de l'adoption. Pour vous, les prédicateurs, c'est du placement d'un fils que je parle maintenant. Vous voyez? Là, quand il en arrivait au point où il était adopté, Jésus en a donné un bel exemple sur la montagne de la Transfiguration. Comme je l'ai dit, Dieu ne fera jamais rien qui dévie de ses lois. Si vous avez un puits artésien sur cette colline-ci qui fait jaillir tout plein d'eau en l'air, et sur cette autre colline ici, vous avez une récolte qui est en train d'être brûlée. Vous pouvez vous tenir sur cette colline et crier « Hé, toi, l'eau, coule par ici pour arroser ma récolte. Hé, toi, l'eau, va jusqu'à ma récolte. » Ça ne marchera jamais. Mais si vous agissez selon les lois de la gravitation, vous pourrez arroser cette récolte. Vous avez un malade étendu ici, ou un pécheur étendu ici, ou un homme qui veut être en règle, qui ne peut pas arrêter de boire, qui ne peut pas arrêter de fumer, qui ne peut pas arrêter de convoiter et tout. Si seulement vous agissez selon les lois de Dieu, que le Saint-Esprit entre là, alors il ne s'appartient plus. Il arrêtera ça. Parce que le Saint-Esprit le prendra sous son contrôle. Seulement, vous devez agir selon les lois de Dieu, les règles de Dieu. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand ce bébé était né, il l'observait pour voir comment il se comportait, le comportement. Alors le père, qui était devenu un grand homme d'affaires, peut-être dans la quarantaine ou la cinquantaine, il n'avait pas le temps d'éduquer le bébé lui-même. Alors, il prenait. À cette époque-là, il n'avait pas d'école publique, comme il y en a maintenant. Alors, il prenait ce qu'ils appelaient un précepteur, ou un éducateur, un maître d'école. Et ce maître d'école, c'était le meilleur qu'il puisse trouver, pour qu'il soit franc et qu'il dise au père la vérité là-dessus. Et puis, quand ce garçon atteignait un certain âge, disons qu'il était devenu mûr, si ce garçon n'était qu'un vaurien, un bon à rien, qu'il ne s'occupait pas des affaires du père, que tout ce à quoi il pensait, c'était à flirter et à sortir avec les femmes, ou à boire, ou aux jeux d'argent, ou aux courses de chevaux. Ce garçon serait toujours un fils, mais il ne serait jamais placé dans la position où il hériterait de tout ce que son père avait. Mais s'il était un bon garçon, et qu'il s'occupait des affaires de son père, et qu'il prouvait qu'il était un enfant digne, alors on faisait une cérémonie. On amenait le garçon dans la rue et on lui mettait une tunique blanche. Et on le faisait monter sur une tribune pour que toute la ville puisse le voir. on faisait une fête et un jubilé. Et là, le Père faisait la cérémonie de l'adoption. Il adoptait son propre fils dans sa propre entreprise. Et là, le fils était à l'égal de son père. Autrement dit, si c'était aujourd'hui, le nom du fils sur le chèque était tout aussi valable que celui du papa. Maintenant, regardez bien ce que Dieu a fait. Quand son fils est né, il l'a laissé aller pendant 30 ans pour le tester, pour l'éprouver. Ensuite, il lui a donné 3 ans de dures épreuves. Et puis, à la fin des dures épreuves, quand il a vu que son fils s'occupait des affaires du Père, la montagne de la Transfiguration, Évangile de Luc, il a pris Pierre, Jacques et Jean, 3 témoins, et il est monté au sommet de la montagne. Et là, Dieu accomplit les lois de l'adoption. Ils ont levé les yeux, et ils ont vu Jésus, et ses vêtements resplendissaient, blancs comme l'éclair. Et alors qu'une nuée l'a couvert de son ombre, une voix est sortie de la nuée, et elle disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Maintenant, je vais m'asseoir et je n'aurai plus rien à dire. Ce que lui dit, c'est la loi et la vérité. » Maintenant, l'Église est passée par ces écoles-là. Elle s'est mariée là-bas, il y a bien longtemps, et elle est devenue une dénomination, une organisation. Mais, vous remarquez, la naissance a produit autre chose. Et maintenant, elle en est arrivée à un point où l'Église pentecôtiste, avec la nouvelle naissance, a été testée et éprouvée. Et maintenant, elle en arrive à un point, Dieu ne traite pas avec l'Église simplement en tant qu'organisation. Il ne traite pas avec l'Église en tant que groupe de gens. Il traite avec l'Église en tant qu'individu, chaque individu dans l'Église. Et maintenant, c'est arrivé un temps, et ce n'est pas un secret, nous le voyons tous. Quand un homme fait ses preuves et que Dieu l'aime, il l'emmène quelque part pour être avec lui. Là, devant les anges, il fait quelque chose pour lui. Il l'élève là-haut, dans la présence de Dieu, et lui accorde des dons, et le remplit, et l'envoie. Voilà l'âge dans lequel nous vivons. Le même Saint-Esprit qui a sauvé les luthériens, qui a sanctifié les méthodistes, qui a baptisé les pentecôtistes, il prépare maintenant la venue du Seigneur Jésus, alors que ce sera tellement puissant, ce corps, il viendra dans ce groupe, une église, ça fera sortir tous les autres de la tombe. Il y aura une résurrection. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Ils vivaient à une époque, d'après cela, nous vivons à une autre époque. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lèvera un étendard contre lui. Voyez? Maintenant, nous sommes à une époque. À l'époque, ils étaient loin d'être aussi avancés qu'ils le sont aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas faire une bombe atomique ou une automobile. Ils n'avaient pas la science et tout, comme on l'a maintenant. Mais, et de ces espèces de choses mystérieuses, d'essayer de dire que l'homme est apparu tout seul, à partir de la poussière et tout, et de prendre une quelconque analyse et d'essayer de prouver ça, pour faire des gens des incroyants. Mais maintenant, quand nous avons besoin de lui, l'Esprit de Dieu lève un étendard. Qu'est-ce que c'est? Il déverse son esprit. Alors, ceux qui reposent là-bas, dans la tombe, ou sous l'autel de Dieu, comme le dit l'Écriture, crient, « Combien de temps, Seigneur? Combien de temps? Combien de temps encore? » Ce que Dieu attend, c'est moi et vous. Ce que l'Église attend, c'est moi et vous. Le temps de l'adoption, quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude, sa puissance, sa résurrection, si bien que l'Église et Christ seront tellement unis ensemble que Christ deviendra visible parmi nous et qu'il ressuscitera les morts et que nous partirons dans l'enlèvement. Maintenant, nous allons dire, montrer dans un moment, qu'il n'y a que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui partent dans cet enlèvement, car les autres morts ne revinrent pas à la vie pendant une période de 1000 ans. C'est vrai. Il n'y a que les gens remplis du Saint-Esprit qui sont partis dans l'enlèvement. Or, Dieu a donné le Saint-Esprit. J'ai un autre passage de l'Écriture ici, dans Jean 14, 12. C'est un passage qui est très familier à tous les gens du tabernacle ici. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, maintenant, ne laissez pas ce mot « croix » vous arrêter, en quelque sorte, dans une église dénominationnelle, de dire « Oui, je crois. Bien sûr, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Le diable croit la même chose, tout à fait. La Bible l'a dit. Mais l'Écriture dit dans Jean que nul ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous, en fait, selon l'Écriture, je vais m'arrêter juste un instant ici, avant de finir de lire. Vous n'êtes pas converti tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. C'est vrai. Vous croyez pour. Le Saint-Esprit vous a parlé et vous l'avez confessé publiquement. Le diable a la même chose. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Le diable aussi. Mais vous continuez à marcher vers lui. Une fois que Pierre a été appelé et justifié en croyant au Seigneur Jésus-Christ, et dans Jean 17, 17, Jésus les a sanctifiés par la parole, car la parole était la vérité, et il était la parole. Jean 1 dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Il était la parole, alors il les a sanctifiés. Il a dit, « Père, en parlant à l'Esprit en lui, je les sanctifie par la parole, lui-même, en posant ses mains sur eux. Ta parole est la vérité. » Il l'a simplement créée par la parole, dans le sein d'une femme. Oh, absolument impossible qu'il soit autre chose, à part cette parole de Dieu, pour le manifester. « Je les sanctifie. Il leur a donné la puissance contre les esprits impurs. Ils sont sortis. Il a mis leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Et il les a envoyés, Jean, Matthieu, 10, et il leur a donné le pouvoir sur les esprits impurs, chasser des mauvais esprits et accomplir des œuvres, et ainsi de suite. Et ils sont revenus tout joyeux en disant, « Les démons même nous sont soumis. » Il a dit, « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont dans le livre. » Et Judas était avec eux. Vous voyez comme il peut être proche, passer par la justification, continuer jusqu'à la sanctification. Mais où est-ce qu'il a montré sa lumière? Où est-ce qu'il s'est montré? Avant la Pentecôte, il a montré ses couleurs. Remarquez bien, cet esprit sera tout aussi pieux et tout aussi moralisateur qu'il peut l'être, jusqu'à ce qu'on en arrive au Saint-Esprit. Et c'est là qu'ils le retrancheront. C'est cet esprit, ne pouvez-vous pas le voir, qui s'élève, l'Antichrist. Et Jésus a dit qu'il serait tellement proche dans les derniers jours que ça séduirait même les élus si c'était possible. Mais souvenez-vous, il n'y a que les élus qui le verront. Dieu appelle par élection. Vous, n'êtes-vous pas heureux d'être l'un d'entre eux? N'êtes-vous pas heureux, vous qui êtes ici ce soir, de savoir qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui tire? Je veux ce Saint-Esprit. Je te veux, Seigneur, dans mon cœur. C'est que Dieu a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde. Il l'a dit. « Nul ne peut venir à moi, a dit Jésus, si mon Père ne l'a attiré premièrement. Et tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle. » Qu'est-ce que la vie éternelle? Le Saint-Esprit. La vie éternelle. Prenez ce mot et cherchez-le en grec. Et il est dit « Zoé ». Zoé, c'est le Saint-Esprit. Et tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Et tous ceux qui viendront à moi, je lui donnerai le Saint-Esprit, et je le ressusciterai au dernier jour. Je le ferai, a-t-il dit. Il n'y a pas de « si » et de « est » là. Je le ferai, tous ceux qui viendront, et je donnerai la vie éternelle. Il faudra qu'il ressuscite, parce qu'il a la vie éternelle. Il faudra qu'il vienne. Il ne peut pas plus mourir que Dieu peut mourir. Oh, mes chers amis, de partout dans ce pays et dans cette petite ville, si seulement, avec ma voix humaine, je pouvais placer dans votre cœur l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ce serait la plus glorieuse révélation que vous ayez jamais eue de votre vie, de voir ce que il faut absolument que vous le receviez. Je vais éclaircir ce point-là. Vous n'êtes pas converti. Pierre avait été sauvé. Il croyait au Seigneur. Il le suivait. Jésus lui avait dit qui il était. Il l'avait amené à le suivre. Il lui avait donné le pouvoir sur les esprits impurs et il l'avait sanctifié. Mais après tout ça, et il était devenu le porte-parole en chef du groupe, comme les catholiques voudraient l'appeler, l'évêque de l'Église ou le pape ou quoi que ce soit, le chef de l'Église. Pourtant, Jésus a dit, la nuit où il a été livré, « M'aimes-tu, Pierre ?» Et il a dit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il a dit, « Paix mes brebis. » Il a dit ça trois fois. Et Pierre a dit, « Tu sais que je t'aime, au point de te suivre jusqu'à la fin, et de te suivre jusqu'à la mort, et ainsi de suite. » Il a dit, « Avant que le coq ait chanté trois fois, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Il a dit, « Mais Pierre, j'ai prié pour toi. » Écoutez, ce n'est pas tout. « J'ai prié pour toi. Et une fois que tu seras converti, alors affermis tes frères. » Une fois que tu seras converti, il avait crié, il avait probablement dansé par l'Esprit, il avait fait toutes sortes de choses, mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Une fois que tu seras converti, alors affermis tes frères. C'est vrai, exécute son plan. Maintenant, je vais terminer de lire Jean 14, 12. Maintenant, au chapitre 14 et au verset 12, Jésus a dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit, et vous ne pouvez pas croire, croit en moi. Vous pouvez croire en vue de parvenir à lui. » Tous ceux qui comprennent ça, dites « Amen ». Vous vous souvenez, dans Acte 19, je suis désolé de m'arrêter ici, mais il faut que je le dise comme ça me vient. Dans Acte, au chapitre 19, quand ce prédicateur baptiste, qui était un homme de loi et qui était converti, il prêchait, et des gens étaient sauvés. Ils avaient beaucoup de joie, ils se réjouissaient, ils criaient, ils faisaient une réunion. Acte 18, Aquila et Priscille, on en a parlé hier soir, et ils étaient allés le voir. Et ils savaient qu'il était un grand homme et qu'il était versé dans la matière. Il prouvait par la Bible que Jésus était le Fils de Dieu, alors qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Il ne connaissait pas encore le baptême du Saint-Esprit. Alors il a dit, « Aquila et Priscille, se mariaient sa femme, des petits faiseurs de tentes. » Et Paul aussi était un faiseur de tentes. Et ils avaient reçu le Saint-Esprit sous l'enseignement de Paul. Ils disaient, « Nous avons un petit frère qui vient ici, qu'il nous parle un petit peu de ça. » Et quand Paul est arrivé et qu'il a entendu prêcher, il a vu qu'il était un grand homme. Il a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Ils ont dit, « Nous ne savons pas s'il y a un Saint-Esprit. » Il a dit, « Alors de quel ?» Ou le vrai mot grec, là, c'est, « Comment avez-vous été baptisé ?» Ils ont dit, « Nous avons déjà été baptisés par Jean-Baptiste. » Maintenant, regardez bien ce que Paul a dit. Paul a dit que Jean a baptisé pour amener à la repentance, pas pour la rémission des péchés, mais pour amener à la repentance, pour dire que c'est ce que vous croyez. Quand vous acceptez Christ comme votre sauveur personnel, vous croyez en vue de parvenir au baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, mes chers frères baptistes, c'est faux. Un frère m'a dit l'autre jour, il a dit, frère Branham, ou il y a quelque temps, quelques mois, il a dit, frère Branham, Abraham a cru Dieu, et cela lui était imputé à justice. J'ai dit, c'est vrai. Il a dit, qu'est-ce qu'un homme peut faire de plus que croire? J'ai dit, c'est tout ce qu'un homme peut faire. C'est tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est de croire Dieu. Mais Dieu lui a donné un sceau, la circoncision. On a vu ça hier soir, comme signe de ce qu'il avait accepté sa foi en lui. Et aujourd'hui, tant que Dieu vous croyez en vue de parvenir à lui, quand vous l'acceptez comme votre sauveur personnel, mais quand Dieu vous donne le sceau du Saint-Esprit, il vous a scellé pour votre destination éternelle. Maintenant, vous, les baptistes, prenez ça, et je serai d'accord avec vous sur la sécurité éternelle. Oui, monsieur. En effet, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellé jusqu'au jour de votre rédemption. Vous n'êtes pas scellé en croyant en vue de, mais scellé par le Saint-Esprit. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellé jusqu'au jour de votre rédemption. Ça vous scelle. Quand vous avez trouvé grâce devant Dieu et qu'il vous a scellé du Saint-Esprit, c'est comme ça, parce que la Bible dit, nul ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous dites, « Je le crois, parce que le pasteur l'a dit. » Il a raison, mais ça ne compte pas pour vous. « Je le crois, parce que la parole le dit. » C'est vrai, mais ce n'est pas pour vous, ça ne vous inclut pas. La seule façon pour vous de dire que Jésus est le Christ, c'est quand le Saint-Esprit entre en vous et rend témoignage, et témoigne lui-même qu'il est le Fils de Dieu. C'est la seule façon pour vous de connaître la résurrection, c'est quand le Saint-Esprit rend témoignage. Quand lui, le Saint-Esprit sera venu, il témoignera de moi. Il vous montrera les choses à venir. Il vous rappellera ces choses que je vous ai dites. Vous ne le trouverez jamais à l'école. Voyez, lui vous rappellera ces choses. Maintenant, nous voulons en lire encore un peu dans ce passage de l'Écriture, là. Jean 14:12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Et là, la bonne traduction, c'est davantage, si vous voulez aller le vérifier. De plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. S'il s'en allait au Père, alors le Saint-Esprit viendrait. Pas vrai? Un autre passage de l'Écriture dit, « Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je reviendrai, et je serai avec vous, et même en vous. » Vous voyez, c'est Dieu avec vous, au-dessus de vous, d'abord, avec vous, en Christ, en vous, dans le Saint-Esprit. C'est Dieu en vous. Maintenant, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Pas une autre œuvre. Mais Dieu veut amener le Saint-Esprit en vous à continuer la même œuvre qu'il faisait en Christ. L'œuvre n'en demandait pas tant au jour de Luther. C'était l'Église de Dieu. Ce n'était pas en demander un peu plus au jour de Wesley. En effet, le monde, a dit la Bible, deviendrait sans cesse plus faible et plus intelligent et plus méchant. Nous, le monde devient plus méchant sans... Nous savons tout ça. Voyons, aujourd'hui les hommes font des choses qu'il y a 100 ans, on ne se serait pas imaginé qu'un être humain puisse être aussi cruel. Sans cesse plus méchant, et les méchants agiront encore plus méchamment, sans cesse, a dit l'Écriture, de plus en plus. Alors, le Saint-Esprit a agi. Il y en a eu juste une petite haleine avec Luther. Il y en avait un petit souffle avec Wesley. Et il y en avait un souffle plus fort avec les pentecôtistes. Maintenant, le souffle et l'esprit sont devenus la même chose. Elle est en train de s'unir, produisant ce même souffle puissant du Saint-Esprit, comme il l'a fait à l'époque. Elle manifeste les mêmes œuvres qu'il a faites à l'époque. C'est manifesté aujourd'hui même, la même chose. Regardez bien ce que Jésus a dit. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire s'il ne le voit faire au Père en premier. Ce que le Père fait, il le montre au Fils. Le Père habite en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Voyez? Maintenant, remarquez, voici encore une chose que j'aimerais dire tout de suite. Comme, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé. Comme, maintenant, regardez bien. comme le Père m'envoyait, je vous envoie. Comme le Père. Comment est-ce que le Père l'avait envoyé? Le Père qui l'avait envoyé est descendu du ciel et a habité en lui. Il est allé de l'avant. Il a dit, « Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. » Voyez? Il s'occupait de faire les choses que le Père lui montrait qu'il devait faire. « Je ne fais rien à moins que mon Père me le montre en premier. » Le Dieu qu'il avait envoyé était à l'intérieur de lui. Et comme le Père m'a envoyé, de la même façon que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Qu'est-ce que c'est? Dieu en vous. Continuons quoi? Les mêmes œuvres. Les mêmes. Jésus a dit, celui qui croit, celui qui m'a à l'intérieur de lui, le Saint-Esprit, celui qui croit, qui a déjà été témoin de ma résurrection, qui sait que je suis en lui, celui qui est en moi, si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. Là, vous dites, je demeure en Jésus, mais je ne crois certainement pas à la guérison divine. Ça montre qu'il n'est pas là. Je crois en Jésus. Je ne crois pas au Saint-Esprit aujourd'hui, pas comme il l'avait à l'époque. Ça montre qu'il n'est pas là. Le Saint-Esprit rendra témoignage de toute parole qu'il a prononcée. Il n'est pas un menteur. Il n'a peur de personne, ni d'aucune organisation. Il n'a pas besoin de baisser pavillon devant qui que ce soit. Il parle, et ensuite, il s'y tient. Si ceux qui sont haut placés, et pollués, et instruits, ou, comme on les appellerait, les plutocrates, si eux ne veulent pas le recevoir, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il prendra des gangsters et des contrebandiers d'alcool et tout le reste, et il en suscitera. Dieu peut le faire, et il le fait. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Quelqu'un va le recevoir, parce qu'il est Dieu. Si vous demeurez en moi, et mes paroles en vous, demandez ce que vous voudrez, parce que vous demandez sa parole, et sa parole est la vie. Prononcez-le. Si Dieu l'a dit, et que vous êtes sûr qu'il l'a dit, le Saint-Esprit rend témoignage de ce que cette parole est vraie. Alors voilà, frère, prononcez-le. Voilà. Dites à cette montagne, ôte-toi de là, ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera. Ce n'est pas vous qui parlez, mais le Père qui habite en vous. C'est lui qui parle. Ce n'est pas vous qui parlez à cette montagne, c'est le Père qui est en vous, qui parle à cette montagne. Elle doit bouger. Tous les cieux et la terre passeront, il a dit. Mais mon esprit ma parole ne passera pas. Certainement, elle ne peut pas passer. Père, bon, les œuvres que je fais, Dieu est dans son Église pour continuer ses œuvres. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Or, il savait ça. Il savait que ça ne serait pas, que ça ne pourrait pas se faire comme ça. Alors, par autrement. Donc, il a dû envoyer. Le Père a envoyé le Fils, a mis tout ce qui était dans le Fils en vous, et les mêmes œuvres qu'il a faites, exactement les mêmes œuvres là, que Jésus a faites, vous aussi, vous les ferez, l'Église. Est-ce que vous n'aimeriez pas faire les œuvres de Dieu? Jésus a dit, si vous voulez faire les œuvres de Dieu, croyez en moi. Comment est-ce que vous croyez en lui? Vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit. En effet, nul ne peut dire qu'il est le Fils de Dieu. Vous dites ce que quelqu'un d'autre a dit. La Bible dit qu'il est le Fils de Dieu. Je crois la Bible. Très bien. La Bible dit qu'il est le Fils de Dieu. Je crois la Bible. Le pasteur dit qu'il est le Fils de Dieu. Je crois le pasteur. Maman dit qu'il est le Fils de Dieu. Je crois maman. Mon ami dit qu'il est le Fils de Dieu. Je crois mon ami. Mais la seule façon pour moi de dire qu'il est le Fils de Dieu, c'est quand le Saint-Esprit entre et rend témoignage de lui-même. Alors je sais qu'il est le Fils de Dieu. Nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Nul, s'il a parlé par l'Esprit de Dieu, n'a dit que Jésus est anathème, ou n'a dit qu'il était quelque chose en ce jour-là et autre chose aujourd'hui. Ça fait de lui quelqu'un de faible et vacillant. Non, monsieur, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tout esprit véritable rendra témoignage de ça. Très bien. Donc, il a dit, « Ces œuvres que je fais, vous les ferez aussi. » Jean 14, 12, là, les mêmes œuvres. Oh, ils disent, l'Église, c'est une œuvre plus grande aujourd'hui. Comment ça? Il a dit, les œuvres que je fais. Ça, ils disent, bon, nous avons des missionnaires dans le monde entier. Ça, c'est une œuvre plus grande. Mais il a dit, les œuvres que je fais. Bon, faites celle-là. Faites celle-là d'abord. Ensuite, parlez de missionnaires. Aujourd'hui, ici, il y a quelque temps, je parlais d'un musulman. Il disait, « Mahomet est mort. » C'est vrai, il est dans la tombe. Mais un jour, il va ressusciter. Il a dit, « S'il ressuscite du tombeau, le monde entier le saura en 24 heures. » Il a dit, « Vous autres, vous dites qu'il y a 2000 ans que Jésus est ressuscité. Il n'y a pas encore un tiers des gens qui le savent. » C'est parce que vous avez parlé d'un point de vue intellectuel. Vous avez parlé du point de vue scolaire ou académique. Si toute cette grande Église de Dieu, en comptant les catholiques, les protestants, tous ensemble, avait reçu le Saint-Esprit, ce monde serait massivement établi dans le christianisme. Le communisme n'existerait pas. Les disputes, ou l'inimitié, ou la méchanceté, ou la haine n'existeraient pas. Jésus serait assis sur son trône, et nous marcherions dans les paradis de Dieu, avec la vie éternelle, vivant pour toujours, déjà ressuscité dans un nouveau corps, en train de nous promener pour ne jamais vieillir, ne jamais grisonner, ne jamais être malade, ne jamais avoir faim, marcher dans les joies du Seigneur, parler avec les animaux, et, oh, quel jour! Mais nous avons fait tout, sauf ce qu'il... Il a dit, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile. Que fait l'Évangile? Pas la parole seulement, mais par la puissance et les démonstrations du Saint-Esprit. Manifester la parole de Dieu, c'est ça l'Évangile. Vous ne pouvez pas le faire. Or, Jésus le savait, qu'il fallait qu'il vive dans son Église. Donc, il savait qu'on aurait des écoles intellectuelles, et vous ne recevrez jamais ceci dans une école intellectuelle. Ils seront contre ça. En effet, tout ce qu'ils connaissent, c'est l'instruction d'un homme intelligent, un credo, une dénomination, selon lesquelles ils veulent vivre. Alors, ils vont vous établir là-dedans et faire de vous un membre de ce corps. Et, frère, vous citez des choses tirées d'un credo qui ont l'air vraiment parfaites. La grande Église sainte, la mère, elle a résisté à bien des coups, elle a résisté à bien des assauts. Le diable aussi, il a été chassé de presque partout. Et pourtant, il continue quand même. Oui, monsieur. Oh, ils essaieront de citer ça. Donc, Jésus savait qu'il allait y avoir un grand mouvement intellectuel, tout comme il y en avait eu un à son époque. De laver des cruches et des plats, et de porter des vêtements et des cols retournés, et toutes les choses comme il les faisait. Toutes ces différentes choses qu'il ferait. Il savait qu'ils allaient faire ça. Alors, il a dit, « Attendez une minute, là. Je ne vais pas vous laisser orphelin. Je vais revenir pour être avec vous. » C'est pourquoi il a dit, « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. » Le but d'envoyer le Saint-Esprit, c'était que Dieu continue à travers un groupe de gens, à continuellement manifester Dieu au monde. C'est exactement ça. Pas par un credo, pas par une dénomination, mais par la puissance de sa résurrection. En rendant sa parole réelle, en prenant sa promesse et en se tenant du côté de la minorité et en croyant Dieu et de voir les nuages noirs se retirer et la puissance de Dieu entrer et prendre la relève. Amen. Voilà ce qu'il veut. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Voilà le but dans lequel il l'a envoyé. Maintenant, nous savons ce qu'il est. Et voilà pourquoi il l'a envoyé. Donc, aucun autre sang ne pourrait sanctifier les gens. Je ne pourrais pas vous sanctifier et vous ne pourriez pas me sanctifier. Parce que nous sommes tous les deux nés par le sexe. Mais Jésus est né sans le sexe. C'est vrai. Donc, son sang était le sanctificateur. Et Dieu est descendu, a fait un corps, a vécu dedans, a répandu ce sang pour sanctifier, ce qui a parfaitement éliminé la culpabilité du péché et la honte. Alors, par la foi, en y croyant, Dieu descend droit dans ce corps humain, par la sanctification de ce sang, ce qui fait de lui la semence d'Abraham par la foi. En croyant que ce sang allait venir, ce sang pur qui serait un miracle comme son sang, il a marché là-bas après qu'il était comme mort. Il a cru Dieu pendant 25 ans. Il avait 75 ans. Il a cru jusqu'à ce qu'il en ait 100. Et Sarah, 65. Elle a cru jusqu'à ce qu'elle en ait 90. Et il était comme un mort. Et Dieu a dit, pour que les gens soient sûrs de ne pas le manquer, emmène-le là-haut, sur la colline, et offre-le en sacrifice. Il a dit aux serviteurs, restez ici avec le mulet et attendez. Le Fils et moi allons nous rendre là-bas pour adorer. Et le Fils et moi reviendrons. Oh, comment est-ce qu'il va le faire? Abraham a dit, je l'ai reçu comme quelqu'un qui vient des morts. Et je sais que celui qui me l'a donné, comme quelqu'un qui vient des morts, peut le ressusciter des morts, si seulement j'observe sa parole. Observez, j'observe sa parole. Il peut le ressusciter des morts. Ça évoquait parfaitement Christ. Le voilà. Et à travers cette cellule de sang est sorti le Saint-Esprit, qui se trouvait enserré dans un corps appelé Jésus. Ce sang a sanctifié par la foi un moyen pour appeler les rachetés ou les élus de Dieu. Et quand vous avez accepté ça, et que le Saint-Esprit a ôté de vous toute la méchanceté, il entre tout droit, Dieu lui-même, pour accomplir sa volonté. Ici-bas, ce méchant patron est grognon, et l'espèce de vieux untel, là, qui fait telle et telle chose, et ce type-là en parle contre. Un homme rempli du Saint-Esprit affrontera tout ça. Amen. Et ils reconnurent. Ils étaient ignorants et sans instruction, mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Un pécheur tout simple, qui ne savait pas signer son nom, mais il s'est tenu là, et il a dit, « Qui croirons-nous, l'homme ou Dieu ?» Amen. Sachez-le, nous prêcherons quand même au nom de Jésus. Oh, quelle hardiesse! Il savait qu'il avait une maison là-bas. C'est vrai, il était un pèlerin et un étranger ici. Il cherchait la ville à venir. Que lui importait ce sacrificateur hypocrite? Il était sous la domination du Dieu du ciel, qui avait ressuscité son Fils, Jésus-Christ. Elle avait rempli de l'Esprit de Dieu, qui avait créé les cieux et la terre. Voilà, il n'avait pas peur de lui. Non, monsieur. La mort, allons, quand ils ont amené ce brave Étienne là-bas, et qu'ils ont dit, « Retire ce que tu as dit !» Il a dit, « Hommes aux coups raides et incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont fait, vous le faites aussi. » Ils ont dit, « Nous allons te battre à mort !» Il a dit, « Vous ne pourriez pas faire ça, quand même vous !» Nous allons te montrer si nous allons le faire ou non. Ils ont pris des grosses pierres et se sont mis à lui frapper la tête. Il a levé les yeux et il a dit, « Je vois les cieux ouverts. Je vois l'échelle qui descend. Je vois Jésus debout à la droite de sa majesté. » Et la Bible ne dit pas qu'il est mort. Il s'est endormi. Oh là là, je peux voir un ange descendre, le prendre et le bercer comme un bébé. Une mère, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Oh là là, bien sûr. Voilà le but du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner de la puissance. J'ai d'autres passages de l'Écriture ici. Juste un instant. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner de la puissance. Vous pourrez trouver celui-là. Je suis vraiment trop parti ce soir. Vous donner de la puissance dans la prière. Prenez une personne qui a vécu une bonne vie, seulement ils sont toujours vaincus. Oh, je vous dis, une brave personne. Oh, bien sûr, j'aime le Seigneur, frère Branham. Toujours vaincu. Ils n'obtiennent jamais la réponse à une prière. Remplissez une fois cette petite femme du Saint-Esprit. Observez ce qui se produit. Quand elle va devant Dieu, elle n'est pas vaincue. Elle s'approche avec hardiesse du trône de Dieu, en croyant. Elle y a droit, parce qu'elle est une fille de Dieu, par une naissance. Prenez ce petit homme, tellement peureux. Le patron n'arrête pas de crier. Il dit, « Un instant, là, quelque chose a changé. » Vous voyez, il a le Saint-Esprit. Il vous donne de la puissance. Votre vie est remplie de puissance. Il vous donne la puissance pour vous exprimer. Oh là là, mais ces gens qui avaient peur, quand ils se tenaient là-dehors, Pierre, Jacques, Jean, Luc et tous les autres, ils étaient allés dans la chambre haute en disant, « Oh, nous ne pouvons plus rien dire. C'est, regardez là, voilà le docteur un tel et un tel là-bas. Voilà le rabbin un tel et un tel. Vous savez, il a 4 diplômes universitaires. Comment est-ce qu'on pourrait jamais lui tenir tête ?» Pierre disait, « Oh, je me rappelle que j'ai vendu du poisson à cet homme-là un jour. Il parlait et je ne savais même pas de quoi il parlait. Oh, je ne pourrais jamais lui tenir tête. Mais que pouvons-nous faire, frère ?» Il a dit, « Attendez. Eh bien, ça fait déjà 4 jours qu'on est ici. Continue d'attendre, c'est tout. Combien de temps? Jusqu'à ce que. Eh bien, est-ce qu'il a dit que ce serait le cinquième jour? Il n'a pas dit combien de temps. Il a dit jusqu'à ce que. Eh bien, ils ont continué à attendre, c'est tout. Combien de temps? Jusqu'à ce que. 8 jours ont passé. Jusqu'à ce que. 9 jours ont passé. Jusqu'à ce que. Finalement, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu, d'un même accord. Dieu avait été au-dessus d'eux dans une nuée ardente. Dieu avait marché avec eux sur la terre. Maintenant, il allait se produire autre chose. Quelque chose est sur le point d'arriver. Ils étaient tous dans le même lieu, d'un même accord. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme d'un vent impétueux. Et il remplit toute la pièce où ils étaient assis. Des langues séparées se posèrent sur eux. C'est quoi séparé? Partagé, comme des balbutiements. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un balbutier? Ils font voyez, ils ne peuvent rien dire. Séparé, partagé, comme un pied fourchu. Ça veut dire quelque chose de séparé, partagé. Ils ne parlaient pas, ils ne baragouinaient pas. Ils ne faisaient rien d'autre que de faire du bruit. Des langues séparées se sont posées sur eux, comme si c'était du feu. Oh, ils ne pouvaient pas se contenir. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les voilà sortis dans la rue. Où est ce rabbin Jones? Où est ce type-là? Et où est ce géant cérébral? Dieu était au-dessus de nous avec Moïse, dans le buisson ardent. Il nous a nourris de manne, d'en haut. Il a marché avec nous pendant 3 ans et 6 mois, ici sur terre. Mais maintenant, il est en moi. Ce n'est pas moi qui parle, c'est lui. Je sais qui il est, et je sais qui je suis. Ce n'est plus moi qui suis, c'est lui. Faites-le venir ici, homme d'Israël, et vous, qui séjournez en Judée. Sachez ceci, sachez, et prêtez l'oreille à ma voix, vous, tous les prédicateurs et les rabbins. Oh là là, la puissance dans la parole. Oh, ces gens ne sont pas ivres. Ils prenaient la défense de cette petite minorité. 120 contre 10 000 ou plus. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Je suis un prédicateur du plein évangile. Mais c'est ici ce dont il a été parlé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous avez vu Marie là-bas, en train de danser par l'esprit, de parler en langue et de faire ces choses bizarres? Sur toute chair! Et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des signes en haut dans les cieux et en bas sur la terre, des colonnes de feu et des vapeurs de fumée. Dieu était dans son peuple alors. Amen. Mais bon, quel diplôme est-ce que tu as eu? D'où? De quelle école es-tu venu? Ça ne change rien en ce moment. Oh, il s'est mis à déverser l'Écriture. David l'avait vu d'avance. Constamment le Seigneur devant moi ne serait point ébranlé. De plus, mon cœur fut dans la joie, car, et ma langue fut dans l'allégresse. Il n'abandonnera pas mon âme dans le séjour des morts, et ne permettra pas que son sein voie la corruption. Qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe, aujourd'hui parmi nous. Mais par un prophète, il avait vu d'avance la venue du juste. Et sachez que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié par la main des impies. Amen. Hommes frères, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera jamais. Amen. Tant que Dieu a un peuple, que Dieu a une église, Dieu a le Saint-Esprit qui l'accompagne. Voilà pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit. Il y aura des intellectuels, il y en a toujours eu, mais Dieu a une minorité quelque part. Dieu a une petite église qui continuera à avancer avec le baptême du Saint-Esprit pour revendiquer la lumière. Et ce sera eux qui, par leur témoignage, jugeront le monde. La Bible ne dit-elle pas que Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu ». Et ne dit-elle pas que les justes, les saints, jugeront la terre? Bien sûr, votre témoignage aujourd'hui amènera le jugement contre cette ville-ci. Notre témoignage du baptême du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu, une vie sainte, amènera le jugement contre la ville. Quand ceux qui sont les premiers seront les derniers, Ceux qui sont les derniers seront les premiers. Je ne saurai rien de Sankey et de Moody dans leur résurrection à eux. Eux ne sauront rien de moi dans celle-ci. Mais je me tiendrai dans celle-ci pour rendre témoignage. Vous aussi. Et en faisant ça, en répandant votre lumière et le baptême du Saint-Esprit, et par les vies que vous avez vécues, et les choses que Dieu a faites pour prouver qu'il agit ici. Et, avec leur intellect, ils s'en sont éloignés. Ils seront jugés par les saints. Ils sont déjà jugés. Ils l'ont déjà passé. Oh là là, j'ai parlé de la puissance dans la prière, la puissance dans la parole, la puissance pour une vie sainte. Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Certains d'entre vous qui se promènent en disant, « Eh bien, je ne peux tout simplement pas arrêter de boire. Je ne peux tout simplement pas arrêter ceci. » Le Saint-Esprit vient vivre en vous pour ôter de vous tous ces « je ne peux pas ». C'est vrai. Pour faire que les femmes arrêtent de se couper les cheveux, pour les faire arrêter de porter des shorts et des pantalons, pas d'excuses, pour les faire arrêter leur commérage. Oh oui, c'est à ça qu'il sert, à vous donner une vie sainte. Il suivra les instructions de la Bible chaque fois. Une femme qui dirait, « Il fait vraiment trop chaud, il faut absolument que je porte ça. Ça me donne mal à la tête quand je me laisse pousser les cheveux. » Mais il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Il est là pour mettre ça en application. Il suivra la parole à la lettre. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à vous faire, vous les hommes, détourner la tête de ces femmes à moitié nues et arrêter de les convoiter alors que vous êtes des membres d'Église. Voilà à quoi il sert. Il sert à vous faire arrêter de fumer et de boire et d'être, de vouloir être une grosse légume. Ça ôtera ça de vous. Ça vous rendra humble. Quand vous ferez ça, voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à produire une vie sainte. C'est ça. Vous faire arrêter vos commérages. Vous faire arrêter de jouer aux cartes, de jouer aux dés et toutes ces autres choses que vous faites dans votre coin. Il vous fera cesser de vous conduire comme vous le faites, d'être infidèle à votre femme. Voilà ce qu'il fera. C'est ça. Il vous fera cesser de vouloir épouser la femme d'un autre. C'est tout à fait juste. Voilà ce qu'il est. Il sert à vous faire vivre une vie sainte. Voilà à quoi sert la puissance du Saint-Esprit, à faire que vous vous affectionniez aux choses d'en haut, là où Dieu se tient haut, la pensée de Christ en vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de voir ces choses. Quand vous les regardez, vous détournez la tête. C'est vrai. Il sert à vous le faire faire. Vous dites, « Je ne peux pas. Oh, je ne peux vraiment pas. » C'est sûr, vous ne pouvez pas. Mais le Saint-Esprit est venu pour ça. Voilà ce qu'il a fait. Il est venu pour ôter ça de vous, toutes ces vieilles habitudes et ces choses que vous faites, ces médisances, de vous séparer en disant, « Gloire à Dieu, je suis méthodiste, je n'aurai rien à faire avec ces espèces exaltées. » Le Saint-Esprit est venu pour ôter ça de vous. « Je suis baptiste, je suis presbytérien, je n'irai pas chez cette bande d'espèces exaltées-là. » Le Saint-Esprit est venu ôter de vous toute cette raideur. Voilà ce qu'il a fait. Il vous lave dans le sang. Il vous repasse. Voilà ce qu'il est venu faire. Il est venu vous redresser. Il a dit, redressez les endroits tortueux. Voilà ce qu'il est venu faire. Redresser ça. Abaisser les endroits élevés. Faire que toutes les montagnes aient toute l'air de danser comme des petits béliers. Et que toutes les feuilles battent des mains pour vous. Les oiseaux chantent différemment. Les cloches de la joie retentissent. Il n'y a pas d'excuse. Voilà ce qu'il est venu faire. Voilà le but dans lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour que vous fassiez ces choses, pour que vous agissiez, marchiez en le suivant. Maintenant, je ne veux pas vous blesser, mais je vous ai dit que je suis ici avec la plus profonde sincérité. Pour éviter d'être trop piquant, de temps en temps, je ferai un détour sur une certaine ligne quelque part, en m'en tenant la vérité, en m'en tenant à ça, mais tout en le disant d'une façon qui ne vous pique pas trop. Mais je veux vous dire quelque chose. Si la Bible dit que c'est mal pour une femme de se couper les cheveux et que vous dites que vous avez le Saint-Esprit et puis que vous vous coupez les cheveux, je me demande si vous l'avez. Ne vous fâchez pas. Sinon, là encore, ça montre qu'il y a un autre point contre vous. Si la Bible dit que c'est mal pour une femme de porter un vêtement d'homme et que vous portez ces espèces de salopettes et de pantalons là, dans la rue, vous, les femmes adultes, je pense que pour un petit, ce serait là qui joue avec les petits garçons et tout. Mais regardez, quand vous, les femmes adultes, 15, 16, 18 ans, jusqu'à l'âge de grand-maman, là, dans la rue. Et la Bible a dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu, qu'une femme porte ces choses. Et vous les portez quand même. Et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Des fois, je me demande, le Saint-Esprit suivra la parole de Dieu à la lettre. Et un prédicateur derrière la chair, qui n'a pas assez de grâce pour le prêcher, je doute qu'il l'ait. C'est tout à fait vrai. Eh bien, c'est à ça que sert le Saint-Esprit. Il sert à donner de l'onction au prédicateur. Il sert à donner de la sainteté au groupe. Il sert à mettre l'Église en ordre. Il sert à mener une unité d'esprit. Il sert à nous unir ensemble avec puissance. Il sert à nous unir ensemble dans l'amour, l'amour fraternel. Peu m'importe que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien, quoi que vous soyez, si nous avons tous été baptisés par un seul Saint-Esprit pour former un seul corps et que nous sommes devenus membres du corps de Jésus-Christ, il n'y a ni les choses présentes, ni les choses à venir, la faim, la famine, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, l'amour de Christ, l'amour de Dieu qui est en Christ, parce que nous sommes nés de son Esprit, lavés dans son sang. Nous sommes une nouvelle créature. Voilà ce que Dieu est venu faire. C'est à ça que sert le Saint-Esprit. Oui, monsieur, c'est à ça. Maintenant, les amis, regardez-moi bien en face. Beaucoup de mains se sont levées pour dire que vous aviez le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est sûr, il y en a eu beaucoup. Oh, là, je vais être un petit peu percutant ici. Ceci est enregistré. Mais on en verra plus long là-dessus demain soir. Si vous dites que vous l'avez et que vous êtes coupable de ces choses, je me demande ce qui vous conduit. Dieu ne vous conduira jamais en dehors de la parole. Il vous gardera avec la parole, parce que ce sont les propres lois de Dieu, de son Église, pour son peuple, pour les femmes et pour les hommes. Eh bien, vous dites, ça ne me fait pas de mal de faire ceci ou cela. Non, la parole dit que oui. Et si le Saint-Esprit est en vous, il vous conduira droit à la parole. Il n'y aura pas d'excuse. Dieu n'apporte pas de changement ou d'excuse. Il fixe la règle et vous vous alignez là-dessus. C'est tout. C'est comme ça pour tout le monde. Vous venez de la même façon. Pierre a dit, repentez-vous, chacun de vous, soyez baptisés, chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voyez, c'est ça. Nous devons nous aligner là-dessus. Maintenant, je ne veux pas vous blesser. Je vous aime trop. Mais, frères, sœurs, est-ce que vous vous rendez compte de que je sais que je devrais me tenir dans les derniers jours à cette résurrection avec cette génération de gens pour rendre compte de cette parole? Et le Saint-Esprit montre ceci. Et moi, je le prêche là-dehors. Où est-ce que vous allez vous tenir? Comment est-ce que vous allez vous en tirer avec ça? Vous ne pouvez pas le faire, mon ami. Ne le faites pas. Maintenant, arrêtez ça. Quoi que vous fassiez de faux, arrêtez-le. Vous dites, je ne peux pas. Alors, vous n'avez pas encore en vous celui qui peut. Quand le Saint-Esprit vient, il vous donne la puissance sur le monde. Et si vous, écoutez ce qu'il a dit. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, c'est que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Maintenant, il n'y a pas d'excuse. Il l'expose clairement. Et nous devons nous aligner là-dessus. Je sais que vous me trouvez terrible, mais c'est juste que je suis terriblement rempli en ce moment. Voyez, écoutez, c'est vrai. Maintenant, alignez-vous-y, frères, sœurs. Ne laissez pas certains de ces instituts intellectuels, par là autour, vous dire, « Oh, ça, c'est pour les vieux schnocks. » Si c'est pour les vieux schnocks, alors Dieu est un vieux schnock. Et si Dieu est un vieux schnock, alors je suis un aussi. Amen. Je veux être comme lui. Pourquoi? Son esprit est en moi, qui a faim et soif, qui appelle tout ce qui est contraire à la parole. Si les gens disent, il n'y a rien de mal à, oh, si un homme joue un peu aux cartes pour s'amuser, et qu'il joue juste pour une ou deux pièces de 5 cents, il n'y a rien de mal à ça. Dieu dit que si. Oh, si on boit juste un petit verre en société, et qu'on se grise juste un petit peu, de temps en temps. Mais Dieu a dit, malheur à lui. Oh, vous dites, ça ne fait rien, frère Branham. Je me coupe les cheveux pour une bonne cause. Une femme, vous savez, toutes les autres femmes le font. Peu m'importe ce que les autres femmes font. Elles ne sont pas votre exemple ou elles ne sont pas le patron chez vous. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous suivrez ses instructions. Peu importe ce que les gens disent de vous. Eh bien, frère Branham, il fait tellement chaud, et il faut vraiment que je porte tel et tel petit vêtement là. L'enfer est plus chaud que ça, chère sœur, je vous le dis. Souvenez-vous de ça. Et le Saint-Esprit vous conduira toujours à la vérité. Et sa vérité est la parole. Ma parole est la vérité. Que toute parole d'homme soit un mensonge, mais que la mienne soit vraie. Et pensez-y seulement, une abomination. Pourriez-vous vous imaginer? C'est un mot terrible à dire pour un prédicateur. Mais je suis allé dans les toilettes de certains endroits où c'était vraiment, on était presque obligé de ressortir, tellement c'était, et des choses sales sur les murs. Je me suis dit, comment est-ce possible que des gens soient si dégradés? Et la puanteur! Et en entrant dans ces endroits-là, je me suis souvent dit, quelle puanteur! Là-dedans, je me pinçais le nez comme ça, pour me laver les mains. J'avais peur que, quand je retoucherais la poignée de la porte, il y ait des microbes vénériens et tout. Et je me disais, oh, un jour, j'étais dans un aéroport, et je suis entré dans un de ces endroits-là, ou dans une gare, et je suis entré là-dedans. Et je me suis dit, oh, miséricorde! Et quelque chose m'a dit, voilà quelle est l'odeur du monde, pour Dieu! C'est une abomination! Je me suis dit, quand je vois une femme qui marche dans la rue, toute moulée comme ça, et qui porte des vêtements d'homme, voilà de quoi ça a l'air. Pour Dieu, c'est une abomination, quelque chose de dégoûtant et de puant devant Dieu. Pourtant, elle ira à l'église le dimanche, toute décorée. Un homme s'en ira par là, il va boire, il va tricher, et aimer l'argent, et duper son voisin, et tout le reste, pour avoir un peu plus d'argent, et faire ces choses, et jouer à des jeux d'argent, et fumer, et boire, et mentir, et ensuite, aller à l'église, et témoigner. Abomination, souillure, ça, c'est l'église intellectuelle. Ils disent, eh bien, je suis membre de l'Église. Oui, il faut donner un quart d'heure à l'Assemblée, un quart d'heure, pour que les diacres et tous les autres puissent sortir fumer, et le pasteur aussi, avant de pouvoir retourner faire la réunion. Dites-moi donc, séparez-vous de tout ce qui est impur. Souillez le corps, je le détruirai. Dieu a dit qu'il le ferait. Et aujourd'hui, par le cancer, c'est 90 et quelques pourcents des morts, par le cancer de la gorge et du poumon, qui sont causés par la cigarette. Souillez le corps, je le détruirai. Mais ils sont tellement en route pour l'enfer, ils continuent à ce train-là, ils ne le savent pas. Et derrière la chair, il y a un prédicateur qui a 4 diplômes de l'université, et il fume lui-même. Je vais vous dire quelque chose, frère. Le Saint-Esprit a été envoyé pour appeler des hommes et des femmes à sortir de ça. Séparez-vous. Le mot « église » veut dire « être séparé ». Sortez du milieu d'eux, dit la Bible. Ne touchez pas à ce qui est souillé, et je vous accueillerai. Et vous serez des fils et des filles pour moi, et je serai Dieu pour vous. Oh là là, je ne veux pas être méchant, mais je veux être honnête et dire la vérité. Oui, monsieur. Oh, comme c'est horrible. Hommes et femmes, où est-ce que nous nous tenons aujourd'hui? Où est-ce que nous en sommes? Arrêtons-nous. L'autre soir, sur un genre de siège, là, dans la chambre, et je dois terminer, un genre de divan, après avoir prié pendant 3 ou 4 jours, là, j'en suis arrivé à un point en tournant rond et en pensant, « Oh Dieu !» Et j'en suis arrivé à un point où je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, « Oh Dieu, nous sommes au bout du chemin. » Et je me rends compte que j'ai négligé. J'ai eu des visites à faire, et j'étais fatigué, et je ne voulais pas les faire. Là, il m'a semblé que je voyais mon Seigneur, qui avançait en chancelant dans l'obscurité, là-bas, quand il était tellement fatigué, qu'il pouvait à peine mettre un pied devant l'autre. Mais il n'était pas trop. Il s'est arrêté pour la femme de Naïn. Ensuite, pour le garçon qu'on avait amené, qui était mort, si bien qu'il est allé toucher le cercueil et utiliser le peu de force qu'il avait pour ressusciter ce garçon. Eh bien, comment se fait-il que je suis fatigué? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi, Seigneur? Voilà que je me dis, eh bien, je me fais vieux. Je ne peux pas le faire. Moïse était là, le même Dieu que je sers. Il s'est tenu là, à l'âge de 120 ans. Caleb était là. Il s'est tenu à l'âge de 90 ans, avec une épée à la main. Il a dit, Josué a mis cette épée dans ma main, il y a 40 ans. Là, il en avait 80. Il a dit, je suis un homme aussi capable aujourd'hui qu'autrefois. Amen. J'ai dit, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. J'ai dit, eh bien, écoute, je suis toujours en train de... et j'ai pris ma femme, là, au fond, par la main, au-dessus de cette Bible et de sa petite Bible à elle. Et j'ai dit, chérie, j'ai été trop négatif. Le Saint-Esprit me condamne au-dedans de moi. J'ai dit, je repense à ces écureuils là-bas. Je repense à Hetty Wright là-bas. Et au petit garçon, je repense à ce que Dieu a fait pour montrer qu'il était Dieu, qui pouvait créer. Alléluia! Je me suis dit, il m'a dit ça il y a des années. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Aucun homme ne te résistera. Tous les jours de ta vie, je serai avec toi. Et à partir de cette main de discernement, il arrivera que tu connaîtras le secret du cœur. Ensuite, ça montera de plus en plus haut. L'année suivante, ça s'est avéré parfaitement, tout autour du monde. Voilà que ceci est arrivé, cet autre ministère glorieux qui le dépassait de loin. J'ai dit, chérie, je te prends par la main, par l'aide de Dieu et par la grâce de Dieu, que je ne sois plus jamais négatif, que je m'avance vers ce réveil ici pour prêcher comme jamais auparavant, qu'ici je me mette d'abord à me sanctifier, pour ouvrir la voie pour les gens, que mes propres péchés, ma propre négligence soient sous le sang, que mes propres manquements soient sous le sang, pour que je puisse m'avancer et dire, suivez-moi les amis, c'est ça. J'ai horreur de voir quelqu'un dire, « Toi, va le faire. » J'aime voir quelqu'un qui montre l'exemple. Oui, monsieur. Ici, il y a quelque temps, il y a eu un incendie en ville. Ici, le feu avait pris à la Farm Oil Company. Ils avaient envoyé le service des pompiers de Jeffersonville là-bas. Et un de mes amis, un homme bien, qui n'avait pas l'habitude de grands incendies comme celui-là, il marchait là en disant, « Envoyez un peu d'eau par ici, les gars. Envoyez un peu d'eau par ici. » Voilà la petite troupe de Clarksville là-bas qui arrive. Ding, 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 ding. Ils accouraient. Et il disait, le capitaine des pompiers descendu d'un pont, il disait, « Envoyez un peu d'eau par ici. Défoncez cette fenêtre-ci. Envoyez un peu d'eau là. » Mais voilà des pompiers solidement entraînés qui arrivaient de Louisville, de l'autre côté de la rivière. Le gros crochet, l'échelle, venait à peine de s'immobiliser, que le capitaine était déjà au bout de l'échelle. Quand on hissait l'échelle, il était à la tête. Il a lancé sa hache avant d'arriver là. Il a défoncé la fenêtre. Il a dit, « Venez les gars !» C'est ça, le feu s'est éteint en quelques minutes. Pas « Envoyez un peu d'eau ici, envoyez un peu d'eau là !» Ça fait penser à certains de ces prédicateurs intellectuels. « Venez avec moi !» Allons-y! Je sais que c'est la vérité. J'ai goûté et vu. Gloire! Le Saint-Esprit a raison. Dieu est bon. Pas essayez ici, essayez là. Entrons en lui. Il est ici. C'est pour vous. Dieu a donné sa puissance à son Église. Pas d'en envoyer par ici et d'en envoyer. Vous n'arriverez jamais à rien. Avancez en tête. Amen. Je ne vois même plus à travers. Amen. Qu'est-ce que nous allons faire? Chaque personne qui est assise ici est remplie de quelque chose. Ensuite, je terminerai. Il se peut que je sois forcé de le faire après ça. Vous êtes remplie de quelque chose. Vous ne pouvez pas être assis là sans être remplie de quelque chose. Vous avez une vie en vous. Cette vie vous gouverne, et cette vie est gouvernée par un esprit. Bon, vous pouvez être rempli du monde, aimant le monde ou les choses du monde. Que Dieu soit miséricordieux envers vous. Vous pouvez être rempli des credos d'une église, de quelques petites prières que vous récitez. Vous pensez que ce sera de prier à un mort ou de faire un genre de signe sur vous. Que Dieu soit miséricordieux envers vous. Et vous pouvez être rempli de religion. Et ça, c'est encore pire. C'est vrai, c'est vrai. La Bible a dit, dans les derniers jours, ils seront très religieux, ayant l'apparence de la piété, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Si vous êtes rempli de religion, vous êtes malheureux. De religion, sans rien de plus. Si vous êtes rempli de credo, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si vous êtes rempli du monde, vous êtes aveugle. Et puis, aussi, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Amen. J'espère que vous l'êtes. Et si vous ne l'êtes pas, j'espère que vous allez être rempli. Et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la puissance, vous avez l'amour, vous avez la paix. Je vous donnerai ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Vous avez la paix, vous êtes scellé, vous avez un signe. Amen. Vous avez le repos, vous avez une joie ineffable, glorieuse. Vous êtes ancré. Oh là là, Voilà ce que vous êtes avec le Saint-Esprit. Vous avez, si vous avez été rempli du Saint-Esprit, vous êtes passé de la mort à la vie. Vous attendez la résurrection générale au dernier jour. Amen. Dans le monde à venir, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, et qui l'ont vu venir en gloire et en majesté, la mer rendra ses morts. Les corps corruptibles de ceux qui dorment en lui vont dormir en lui. Comment est-ce qu'on entre en lui? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Les corps corruptibles de ceux qui dorment en lui seront transformés et rendus semblables au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. J'entendis du ciel une voix, a dit Jean, qui disait, « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur !» Comment est-ce que vous allez entrer? Par un seul esprit, nous sommes baptisés pour former le corps. Qui meurent dans le Seigneur dès à présent, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Voilà pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. « Oh, assurance bénie, Jésus est mien. Je suis en lui et il est en moi. Le Père en lui et lui dans le Père. Et le Père en moi et moi en lui. Jésus est mien. Oh, quel avant-goût de la gloire divine. Je suis un héritier du salut, acquis par Dieu, né de son esprit, quand je fus lavé dans son sang. Amen. Je n'échangerai pas ça. Oh là là, de rubis et de diamants, d'or et d'argent, ses coffres sont remplis. Il possède d'ineffables richesses, car je suis un enfant de roi. Je suis l'enfant du roi, avec Jésus mon sauveur, qui fait de moi un enfant du roi. Amen et amen. Je ne troquerai pas ça. Je ne troquerai pas ça. J'ai deux ou trois autres passes. Ensuite, voici un autre passage de l'Écriture. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, voilà ce que vous avez. Alors, qu'est-ce que vous êtes pour le monde? Un étranger. Je sais qu'il est tard, mais il n'est jamais trop tard pour ceci. Un étranger. Oh, nous sommes pèlerins et étrangers ici. Nous cherchons une ville à venir. Le bateau de sauvetage vient bientôt. Rassemblez ces joyaux à la maison. J'entends le clapotis de l'eau, là-bas à la rivière Oyo, quand j'étais un tout jeune prédicateur d'environ 22 ans, que je chantais ça là-bas. Et j'ai regardé au-dessus de moi, et j'ai entendu une voix dire, « Lève les yeux, voilà cette grande lumière qui est arrivée, suspendue en plein là, qui est descendue sur moi et qui a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu auras un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. » Oh, comment pouvais-je le croire? Mais c'est arrivé quand même. Et ce soir, les feux du réveil brûlent tout autour du monde. La glorieuse Église de Dieu rachetée s'est élevée pour sortir de là avec des grandes campagnes de guérison et des signes et des prodiges et des miracles qui montrent la venue. Vous êtes d'ailleurs et vous êtes un étranger. Vous faites des choses étranges, différentes de ce que vous faisiez avant. Vous n'agissez plus comme vous agissiez avant. Les gens, le Saint-Esprit, quand il vient sur vous, et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ignorez les choses du monde. Vous ignorez les choses qui vous empêcheraient d'avancer. Vous ignorez ça. Alors, vous devenez une créature aux manières bizarres. Le vilain petit canard, pour eux, l'aiglon qui était éclos dans la couvée de la poule, comme j'ai prêché, et quand l'aigle éveille sa couvée. Pour eux, vous êtes une drôle de créature. Mais, oh là là, vous montez le chemin du roi. Amen. Oh, c'est un chemin qui mène au ciel. Et je monte le chemin du roi. Ils disent, regardez cet exalté, ce vilain petit canard. Voilà ce prédicateur exalté. Un prédicateur méthodiste bien connu a dit un homme aujourd'hui à Louisville. Il a dit, j'aimerais aider Frère Billy, mais vous savez ce que je ferais? Il faudrait que je me compromette. Vous n'avez pas besoin de vous compromettre pour moi. Lui a compromis sa vie pour moi. Amen. Nous montons le chemin du roi, c'est ça. Oh là là, rempli de son esprit, né de son esprit, lavé dans son sang. Alléluia, c'est la joie. Et puis, autre chose, pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait faire ça? Vous êtes toujours un humain, mais qu'est-ce qui vous le fait faire? C'est que vous venez, vous, votre esprit, vient d'en haut. C'est Dieu en vous. Quand je suis allé à Rome, j'ai remarqué qu'ils avaient tous un esprit romain. Quand je suis allé en Grèce, ils avaient tous un esprit grec. Je suis allé en Angleterre, ils avaient tous un esprit anglais. Quand vous voyagez, vous trouvez... Et puis, vous trouvez l'esprit américain. Il est horrible. Quand je suis allé aux catacombes de Saint-Ange à Rome, ils avaient accroché un écriteau là. « Américaine, veuillez vous habiller pour honorer les morts. » L'esprit américain. Regardez-les descendre de l'avion avec ses petits vêtements sur elle. Et tout le monde se met à les regarder. Et voici Miss Amérique qui arrive. C'est l'esprit américain. Vous voyez d'où elle vient, tout endimanchée, mes amis, avec une espèce de caniche tout morveux qu'elle traîne derrière elle. C'est ça. Oh oui, elle est l'Amérique, Miss Amérique. Elle s'avance, vous savez, en se pavanant comme ça. Pourquoi? Elle a l'esprit américain. Mais Jésus a dit, il a témoigné contre ça ce jour-là. Il a dit, vous êtes de cette terre ici-bas, moi, je suis d'en haut. Et si vous avez l'Esprit de Christ en vous, vous êtes d'en haut, alors vous êtes un étranger ici. Mais vous avez la nature de l'endroit d'où vous venez. Voilà ce que j'essaye de dire. Un Romain qui vient ici, il se gratte la tête. Et un Allemand qui vient ici, l'Américain qui va là-bas. Pourquoi? Vous avez les esprits de ces pays d'où vous venez. C'est ça qui fait que nous sommes tellement différents du monde. Vous êtes d'en haut. Vous êtes né. Vous êtes un citoyen d'un autre royaume. Vous le croyez? Voilà à quoi sert le Saint-Esprit, à faire de vous un citoyen du royaume de Dieu. Alors, si vous êtes un citoyen du royaume de Dieu, comment est-ce qu'il vous fait agir? Comme Dieu le fait dans son royaume. Alors, qu'est-ce que Dieu fait dans son royaume? C'est la sainteté, la justice, des pensées pures, un esprit pur. La puissance et l'amour, d'aller vers les perdus, de guérir les malades, d'accomplir des miracles, de faire de grandes choses. Alors, pour le monde, vous avez l'air d'un fou. Ils disent, ces gars-là sont dérangés de la tête, voyez, mais vous êtes un citoyen du royaume. Encore un passage de l'Écriture, si vous voulez le noter, Jean 12, 24. Je vais vous le citer en vitesse. Jésus a dit, si le grain de blé tombe en terre, s'il ne meurt, il ne peut pas produire une autre vie. Maintenant, regardez une dernière remarque là. Et rappelez-vous alors, c'est absolument là, pour vous autres, il est absolument essentiel et nécessaire et indispensable et obligatoire que vous receviez le Saint-Esprit maintenant. En effet, si vous ne le recevez pas, vous ne pouvez pas venir à la résurrection. Maintenant, regardez bien. Dieu ne peut pas violer ses lois. Ça, nous le savons. Il suit ses lois. Maintenant, une semence de blé, ou un grain, disons, comme Jésus l'a dit, là. Bien sûr, un grain dans la Bible. Je viens de lire ça aujourd'hui. Ça se rapporte à du lin, ou n'importe quelle semence. Mais du blé, de l'orge, du blé d'Inde, ou n'importe quoi, c'est un grain. Mais quand un grain de blé tombe en terre, maintenant, il y a... Chacun de nous ici a vu, sait que ça arrive. Un grain de blé ou un grain de maïs peut avoir l'air aussi parfait que possible, et vous le mettez en terre. Et si ce grain, il a la vie perpétuelle, il descendra aujourd'hui, il se reproduira dans une tige, et il redescendra, et il remontera, et il redescendra. C'est la vie perpétuelle. Si ce grain n'a pas le germe de la vie en lui, peu importe combien il a l'air beau, il ne ressuscitera jamais. Il ira en terre, il pourrira, et voilà tout. Une partie de lui, les matériaux, peuvent servir à fertiliser et tout dans le sol. Mais pour ce qui est de reprendre vie à un moment donné, il ne vivra jamais à moins d'avoir la vie perpétuelle en lui. N'importe qui sait ça. Vous ne pouvez tout simplement pas. Il peut y avoir deux hommes, l'un exactement, tous les deux absolument pareils. L'un peut être un homme bon, il peut faire des bonnes œuvres, il peut faire tout le reste. Mais si cet homme n'a pas la vie éternelle en lui, il ne ressuscitera jamais à la résurrection. Il ne peut pas le faire. Il n'y a rien là qui puisse ressusciter. Il n'y a rien là qui puisse le faire se lever. Il n'y a pas de vie. Donc, vous voyez, mon cher frère, ma chère sœur, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut aucunement revenir dans ce royaume. Il ne peut pas. Si ce grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il parlait de lui-même. Mais il avait, non pas la vie perpétuelle, il avait la vie éternelle. Et cette vie, il vous l'a donnée, pour que vous ayez la même sorte de vie. Maintenant, si vous n'avez que la vie humaine, qui vous permet de vous déplacer et de convoiter, celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Vous ne pourrez pas ressusciter. Vous pouvez être la fille la plus populaire de l'école. Vous pouvez être la fille la plus populaire à la partie de cartes de votre association. Vous pouvez être la femme la mieux habillée du pays. Vous pouvez être la plus belle. Vous pouvez être la mieux faite. Vous pouvez être une idole pour votre mari. Vous pouvez être toutes ces choses, ce qui est merveilleux. Mais sœurs, à moins que vous ayez le Saint-Esprit en vous, qui est la vie éternelle, au bout de ce chemin, vous êtes finis. Et peu m'importe votre apparence, ou comment sont ces choses, ou combien vous êtes impopulaire ou populaire, combien belle ou combien laide, si vous avez la vie éternelle là-bas, vous vivrez au siècle des siècles. Quand la lune et les étoiles auront disparu, et que la terre aura versé des larmes jusque dans les montagnes et les déserts, et que tout aura, ça n'existera plus, et que le monde titubera comme un homme ivre qui rentre chez lui le soir, et que les étoiles refuseront de briller, et qu'elles tomberont des cieux, et que la lune se changera en sang, et que le soleil rougira et se cachera la face quand ils verront venir le Fils de l'homme. Vous resplendirez dans la justice de Jésus-Christ pour sortir de la tombe comme une belle jeune femme, pour prendre votre compagnon et pour vivre au siècle des siècles. Et pendant tous les âges éternels, vous vivrez encore. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Si vous ressentez le moindre petit quelque chose qui tire, ne le repoussez pas. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, Dieu en vous, à quoi est-ce qu'il sert? À poursuivre son œuvre parmi son peuple, à rassembler son Église, à amener l'Église à une position en ce jour, bien au-delà des luthériens, des méthodistes et des pentecôtistes, en position pour une adoption et une grâce de l'enlèvement. Que, quand cette partie de l'Église, quand l'Esprit entrera dans cette Église ici, elle va ressusciter. Et elle va faire sortir tous les rachetés qui ont touché cet esprit. Ces luthériens qui se sont tenus là, avec tout ce qu'ils avaient comme lumière, dans la justification. Ces méthodistes qui tombaient par terre et on leur versait de l'eau sur le visage, à cause de ce que l'esprit les saisissait par la sanctification. Ces pentecôtistes qui marchaient de long large dans la rue et qu'on appelait des long dealings et des baragouineux et des longs doigts et tout ça. Ils se tiendront dans la justice, aux yeux de Dieu, ce jour-là, tout aussi sûr que cette Bible se trouve ici. Si vous croyez que je suis un serviteur, vous m'appelez son prophète. Ce n'est pas le nom que je me donne. Mais écoutez, je vous le dis au nom du Seigneur. Ceux qui sont en Christ, Dieu les amènera avec lui, à sa venue, à la résurrection, et seulement ceux qui sont en Christ. Comment est-ce que nous entrons en Christ, mes amis? Par un seul credo, nous sommes tous entrés? Par adhésion? Non. Nous sommes tous entrés, tirés par une seule poignée de main? Non. Nous sommes tous entrés par le baptême dans une seule eau? Non. Ou par une seule dénomination? Nous sommes tous entrés par dénomination? Non. Mais par 1 Corinthiens 12-13, par un seul Esprit, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, nous avons tous, les méthodistes, les baptistes, les luthériens, les presbytériens, marchons dans la lumière comme il est dans la lumière. Nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de toute iniquité. Par un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps, et nous sommes devenus participants de sa grâce. Vous ne pouvez pas aller en jugement. celui qui écoute mes paroles et qui croit. Nul ne peut croire avant d'avoir le Saint-Esprit. Et qui croit à celui qui m'a envoyé, que le Saint-Esprit a témoigné de sa résurrection, a la vie éternelle et ne viendra point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Quoi? Vous ne serez jamais pris au jugement. Vous ne vous tiendrez jamais au trône blanc pour être jugé. Vous êtes jugé ici même. Vous avez passé votre jugement quand vous êtes passé et que vous avez dit, « Je ne vaux rien et ce que j'ai appris ne vaut rien. Seigneur, entre en moi et prends-moi et conduis-moi, Seigneur. Peu m'importe ce que dit ce monde en folie. Conduis-moi, Seigneur, par ton esprit. » Alors, vous avez jugé. Jugez-vous vous-même fou pour Christ. Et dans sa justice, ce jour-là, nous nous tiendrons immortels à sa ressemblance. Une seule manière. Comment? Par un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Et quand vous êtes dans ce corps, le jugement a déjà jugé ce corps. Et vous l'avez accepté comme victime propitiatoire pour votre péché. Vous dites, « J'ai fait ça, frère Branham. » Dans ce cas, si le Saint-Esprit est revenu et vous a donné un sceau comme signe, cet esprit vous fait entrer dans le corps de Christ. Vous faites demi-tour et vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous êtes passé de la mort à la vie. Les choses anciennes sont passées et vous êtes nouveau en Christ. Amen. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi vous convaincre, ma sœur ou mon frère chrétien. Ne laissez pas ce réveil passer à côté de vous. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est? L'Esprit de Dieu. À quoi sert-il? À vous conduire, vous guider, vous remplir, vous sanctifier, vous appeler à sortir pour entrer dans l'Église. Qu'est-ce qu'une Église? Que veut dire le mot Église? Appeler à sortir, séparer. Oh, comme je pourrais tirer une prédication de ça maintenant même. Appeler à sortir, séparer, des étrangers, loin du monde, pèlerins et étrangers, professant que nous n'avons ici aucune ville terrestre où nous désirions vivre. Oh là là! Comme Abraham et Isaac et Jacob ont séjourné en habitant dans des tentes dans le pays. Ils ont professé être des pèlerins et des étrangers. La semence de l'héritier, l'héritier là-bas, le père, l'héritier, nous sommes leur semence. Ils cherchaient une ville dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Amen. Ils cherchaient. Et aujourd'hui, leur semence cherche toujours une ville à venir en disant, « Je ne veux pas m'adapter à ce monde. Je ne veux rien avoir à faire avec ce monde. Je veux, j'attends une ville qui est construite en carré. J'attends une ville qui a la vie éternelle, où le soleil ne se couchera jamais, où il n'y aura jamais de vieillesse, où il n'y aura jamais un morceau de crêpe noire accroché à la poignée d'une porte ou une tombe sur le flanc de la colline. » J'attends cette ville dont l'architecte est le constructeur, c'est Dieu. Il n'y a qu'un seul moyen de la trouver. Il y a une pierre qui s'est détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main, qui a roulé pour aboutir dans le monde et l'écraser. Il est devenu comme du blé ou de la balle sur une aire. Que cette pierre, ce Jésus-Christ, cette pierre d'achoppement pour le monde, une pierre de scandale, une pierre de risée, une pierre d'achoppement pour l'Église. Mais une pierre précieuse, une pierre d'aimant pour le croyant, une pierre d'assurance, une pierre de repos. Oh là là, oh repos, je sais que je suis passé de la mort à la vie, mon âme est au repos. Oh, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. Un signe dont on dira du mal, a dit le prophète à Marie. Ce sera un signe, bien sûr que oui, mais ce sera une assurance, ce sera un amour, ce sera une satisfaction, ce sera quelque chose qui vous fait savoir que vous êtes passé de la mort à la vie. Mon frère, ma sœur, comme votre frère, comme votre serviteur en Christ, laissez-moi vous convaincre de tout mon cœur. Ne laissez surtout pas ceci passer par-dessus votre tête. ou à côté de vous, ou en dessous de vous. Recevez-le dans votre cœur, et vous serez une personne heureuse sur la terre. Je ne vous promets pas que vous allez avoir $1 million. Non, monsieur. Frère Léo, je trouve qu'il y a trop eu de ces promesses-là. Des millions de dollars. Les choses qui ont été dites par différentes personnes. Si vous devenez chrétien, vous auriez $1 million et vous seriez un homme riche. Je ne vous promets rien. Je vous promets ceci. La seule chose que je puisse vous promettre, son salut. Sa grâce est suffisante pour chaque épreuve. Ceux qui étaient à la Pentecôte, ils ne voulaient même pas de ce qu'ils avaient. Alors, parler de millionnaires, ils ne voulaient pas de ce qu'ils avaient, Sir Angie. Je voudrais vous entendre chanter, vous et Gertie, un de ces jours. Où est-ce qu'elle est? La semaine du retour à la maison, un de ces jours. Beaucoup d'entre eux ont déjà traversé la frontière depuis. Oh là là! Ils n'ont pas demandé de grandes choses. Ils n'ont pas demandé de l'argent. Allons, Pierre a dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et c'est ce que je dis ce soir, mes amis. La joie, l'amour, l'assurance que j'ai de Christ et de sa résurrection, ce que j'ai, je vous l'offre. Je vous l'offre à vous qui êtes les enfants de Dieu. Alors venez et restez à la croix si Dieu vous a appelé et ne vous relevez pas de là. Quand vous viendrez demain soir, venez soit pour entrer ici et rester jusqu'à la fin ou avancez-vous et nous prierons et nous vous imposerons les mains. Allez, c'est l'ordre de la Bible de leur imposer les mains pour le Saint-Esprit. Et puis nous allons, vous rentrerez chez vous. Si vous restez là, si vous restez toute la nuit, que vous restez le lendemain, que vous restez le surlendemain, que vous restez pendant toute la période des fêtes, que vous restez jusqu'au jour de l'an et que vous restez encore, restez jusqu'à ce que. Là, tout ce que nous enseignerons demain soir, en vous montrant dans la Bible ce qui doit venir, va venir. Et quand ça sera venu, alors il n'y a pas assez de démons dans les tourments. Vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les cloches de joie du ciel retentiront. Frère Othal, je vous le dis, ça vous enflamme vraiment. Voilà un brave gars assis ici, un brave frère à moi, qui était un gangster, qui s'en allait avec des revolvers à la ceinture, en cherchant un homme derrière le coin, quelqu'un à qui faire éclater la cervelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il a regardé et il a cru en vue de recevoir la vie. Et il a continué à marcher. Il suivait mes réunions. Et le pauvre, il n'avait même pas de quoi manger. Il s'étendait pour dormir dans les buissons, à côté de la tente. Il avait faim et soif. Et un jour, le Saint-Esprit est venu. Oh, mon frère, ça vous a changé, n'est-ce pas? Ça a apporté la vie et ça a enlevé la mort. La haine est partie et l'amour est entré. Oh là là, l'inimitié et l'esprit de dispute sont complètement partis. Une vie nouvelle est entrée. Regardez-en d'autres et encore d'autres et d'autres et encore d'autres. Et partout, là, oh, les cloches de joie du ciel retentissent. Mes amis, il n'y a aucun moyen pour moi de l'exprimer. Écoutez, avant que je passe à autre chose, si vous avez cru mon témoignage en tant que serviteur de Christ, et j'ai essayé de vous montrer par la Bible de Dieu que c'est juste, et si mes paroles là-dessus ont l'air d'être un petit peu bizarres, regardez cette photo dans le monde scientifique. Observez le fruit de cette colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. Observez le fruit qu'elle porte. Voyez ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Ce n'est pas moi qui parle, c'est lui qui parle à travers vous, vous voyez. Ce n'est pas moi qui vois la vision, c'est lui qui parle à travers vous. Ce n'est pas moi qui guérit les malades, c'est celui qui est en moi qui guérit les malades. Ce n'est pas moi qui prêche, je suis une poule mouillée et je m'enfuirais rien qu'à l'idée. Mais c'est lui qui parle à travers. Je ne connais pas la parole, mais lui la connaît. C'est ça, c'est ça. Voilà ce que c'est. Et le voilà. Et ce même ange de Dieu est ici même, dans le bâtiment ce soir. Oh, comme je l'aime. Maintenant, combien veulent recevoir le Saint-Esprit? Faisons l'examen de nos vies. Combien ne l'ont pas reçu et veulent le faire? Levez la main, dites, Frère Branham, du fond de mon cœur, je veux recevoir le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse partout. Combien d'entre vous qui l'avez reçu aimeraient aller comme ils l'ont fait dans Actes 4 et dire « ô Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons en montrant des signes et des prodiges dans le nom de ton Saint-Fils Jésus. Et donne-moi une pleine assurance et de l'amour pour parler et un nouveau remplissage. Oui, voici la mienne aussi. Ô Dieu, donne-le-moi. » Courbons la tête avec la plus profonde sincérité, chaque personne gardant son désir dans son cœur. Seigneur Jésus, nous terminons cette petite réunion ce soir après avoir eu communion autour de la parole et du Saint-Esprit. Comme il nous a bénis et a déversé dans nos cœurs l'huile de sa parole. Il y a des prédicateurs, il y a ici des hommes qui menaient toutes sortes de vies, qui ont goûté et vu que le Seigneur est bon. Nous savons maintenant ce qu'est le Saint-Esprit, une promesse de Dieu. C'est la vie éternelle pour tous ceux qui croient. Et nous savons que le Saint-Esprit était l'Esprit de Jésus-Christ, qui a été envoyé de nouveau, et il est en nous aujourd'hui, comme Dieu était au-dessus de nous dans cette colonne de feu. Ensuite, il a marché avec nous dans un corps qui était appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Et maintenant, il est en nous, par le Saint-Esprit, Dieu en nous. Oh, Jésus a dit, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Vous le comprendrez ce jour-là. En effet, vous êtes maintenant dans un monde de ténèbres, pour ainsi dire. Mais ce jour-là, vous comprendrez. Père, on ne peut pas le rendre de façon claire et nette, parce qu'à ce moment-là, nous n'aurions rien en quoi avoir la foi. Mais toutes les œuvres de Dieu sont gouvernées par la foi. Et par la foi dans ta parole, dans le signe du Saint-Esprit, dont nous savons maintenant ce qu'il est, je demande que toute âme affamée ici soit remplie du Saint-Esprit. Ceux qui ne l'ont pas et qui ont faim de le recevoir, souvenez-vous simplement, nous voulons leur dire, Seigneur, la même chose que tu as dite. Heureux serez-vous lorsque vous aurez faim et soif. Vous serez rassasiés. C'est une promesse. Et c'est même une bénédiction que d'avoir faim. Vous êtes bénis rien que de savoir que Dieu vous a parlé. Car elle a dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. » Et Seigneur, ceux qui sont de vieux vétérans ici, ils ont levé la main. J'avais la mienne levée. « Oh Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la puissance d'étendre la main de ton Saint-Fils Jésus, afin que des signes et des prodiges soient accomplis, afin qu'il y ait un ministère plus profond, quelque chose d'encore plus grand que ce qui est arrivé jusqu'ici. Donne-nous la hardiesse et l'amour pour parler aux gens. Accorde le Seigneur. Sois avec nous en toutes choses. Nous le demandons au nom de Jésus. Et demain soir, Seigneur, qu'il vienne un tel vent impétueux qui descende dans ce bâtiment, que ce soit tout comme un autre jour de la Pentecôte. Le fondement a été posé. Tout est prêt. Les bœufs sont tués. Les veaux gras sont tués. Les béliers sont tués. La table est mise. Les convives sont conviés. Ô Seigneur, envoie un jubilé de Pentecôte demain soir dans ce bâtiment et remplis chaque âme du baptême du Saint-Esprit. Accorde le Père. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous apprendrons beaucoup de choses. Nous aurons une harpe faite d'or, peut-être de 1000 cordes. Nous chanterons et nous crierons et nous danserons. L'agneau séchera nos larmes. Nous aurons une glorieuse semaine de retour à la maison. Les premiers 10 000 ans. Amen. Le précieux sang du propre Fils de Dieu a purifié et sanctifié un merveilleux peuple pour son nom. Et ils sont appelés l'épouse. bien qu'ici négligé et méprisé. Un jour, le Seigneur amènera ses élus à entrer par la porte, et ça vaut tous les efforts. Quand nous serons à l'intérieur des portes de perles, nous apprendrons.